Donc ça c'est publié chez Gallimard dans la collection Bibliothèque des Histoires.
C'est un assez gros livre, avec beaucoup de photos.
Et un peu le genre de livre qu'on a souvent comme cadeau. Si on l'avait souvent comme cadeau, c'est pas mal, mais souvent c'est ce genre de livre, pas mal de photos et tout qu'on a comme cadeau, mais c'est pas toujours très intéressant, c'est pas le problème. L'autre livre, qui est également un assez gros livre, c'est une personne qui a été également une spécialiste du bouddhisme et du bouddhisme philosophique, qui était Madame Liliane Silburn. Et ça s'appelle « Aux sources du bouddhisme ». Ça, c'est un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Je pense maximum un ou deux ans. Qui est publié chez Fayard. Et alors là, c'est pareil, si vous voulez, on trouve dans le livre de Liliane Silburn, on trouve beaucoup de traductions de textes d'un peu toutes les écoles. Donc ça donne un panorama. Et elle a fait travailler avec elle un certain nombre de spécialistes. Donc aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est que on va essayer de voir comment le bouddhisme se présente aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas du bouddhisme, on pourrait dire en tant que religion constituée, il y a un très grand nombre de courants. Donc évidemment, je ne pourrai pas parler de tous, mais j'essaierai de parler des principaux. Mais il y a quand même énormément de courants, et eux-mêmes, ces courants se sont morcelés en plusieurs, je ne sais pas comment on peut dire, écoles, sectes, etc. Bon, j'emploie le mot secte absolument sans aucune nuance péjorative, c'est-à-dire pas dans son acception moderne, mais comme étant une section, une branche de quelque chose. Hein. Donc je ne l'emploie pas du tout dans le sens, par exemple, comme la loi anti-secte ou des choses comme ça. Hein. Il n'y a pas d'église unitaire, en quelque sorte, du bouddhisme, à la tête de laquelle il y aurait, je ne sais pas, pour les catholiques, par exemple, l'équivalent du pape. Hein. On trouve beaucoup d'écoles différentes, avec effectivement, à la tête de chacune de ces écoles, un dignitaire, mais il n'y a rien qui réunisse l'ensemble de ces écoles. Vous avez également beaucoup de, comment dirais-je, d'ordres religieux, donc pour les moines, mais chacun de ces ordres religieux appartient à une école. C'est-à-dire que vous n'avez pas, par exemple, pour reprendre l'exemple du catholicisme, différents courants qui, je ne sais pas, qui sont, mettons, les dominicains, les cisterciens, ou bon, je ne sais pas exactement, les trappistes, les jésuites, ou quoi, et qui ont chacun des congrégations de, comment dirais-je, de leur propre ordre, avec leurs propres règles, avec des modes de pratique qui leur sont propres, des vêtements qui leur sont propres, etc. Et mais tout à fait à la tête de ça, quand vous remontez en haut, donc vous avez le pape. Mais dans le bouddhisme, la même chose que cela, bonjour madame, la même chose que cela n'existe pas, et donc vous avez beaucoup de, comment dirais-je, de congrégations religieuses, beaucoup de courants différents, même on pourrait dire, c'est quand même très, la vue est en premier fragmentée. C'est la première idée qu'il faut avoir. Il ne faut pas avoir l'idée que c'est quelque chose d'unitaire, c'est quelque chose qui est extrêmement fragmenté et qui recouvre quand même géographiquement un territoire extrêmement important. Parce que, en gros, si vous voulez, pour avoir une idée, même si l'influence du bouddhisme a quand même beaucoup baissé, mettons, si on compare par exemple au bas Moyen-Âge, essentiellement à cause des invasions islamiques. L'Afghanistan, par exemple, est un pays bouddhique. Hein. Une bonne partie de l'Inde également. Donc tout ça, ça a baissé, mais depuis, il y a eu également une forme d'expansion en Extrême-Orient, même jusqu'en Indonésie, et également une expansion à un niveau moindre, en Occident, vers les États-Unis. Donc actuellement le bouddhisme se présente sous une forme, comme j'ai dit tout à l'heure, donc qui est morcelée et qui s'étend sur des aires culturelles extrêmement différentes les unes des autres. Le fait qu'il y ait beaucoup de courants, et on va voir à quel point ces courants sont différents dans peu de temps, tient au mode d'enseignement qui a été celui du bouddhisme depuis l'origine. comme je vous l'avais dit quand on avait étudié la vie du Bouddha Shakyamuni, c'est un homme qui avait été un grand marcheur. Quand on voit sur une carte de l'Inde les régions qu'il a parcourues, c'est énorme. Il faut bien voir que c'est à une époque où il n'y avait pratiquement pas d'écrit, c'est-à-dire que, où l'information ne se communiquait que de personne à personne et d'une manière orale. Je vais peut-être fermer une des fenêtres parce que ça fait quand même pas mal de bruit. Juste une, je crois que voilà, ça fera bien.
Ça va?
Oui, je crois que ça va. Du coup, ils font moins de bruit dans la rue également. Là. Donc, il faut que dans la vie, il faut être déterminé. Ce qu'il faut bien voir, c'est que à l'époque du Bouddha, donc à peu près 6 siècles avant Jésus-Christ, donc les choses n'étaient pas notées par écrit, il n'y avait pas de mode de transmission de l'information autre que de personne à personne. Il y avait quand même des écrits qui existaient, mais qui étaient extrêmement peu nombreux, il n'y avait pas de mode de reproduction de l'écrit autre que le fait d'écrire à la main. L'imprimerie, etc., n'avait pas été inventée, être inversée un petit peu plus tard en Chine. Et donc, à cette époque, ce qui se passe, c'est que le Bouddha, donc, arrivait, mettons, dans un village, il rencontrait des personnes. Parmi ces personnes, il pouvait rester un certain temps, pas forcément longtemps dans ce village, donc, des personnes embrassaient la nouvelle doctrine. Et, comme je l'avais dit quand on étudiait sa vie, c'est un homme qui était un pédagogue hors pair. Ce qui fait qu'il donnait à chacun un enseignement qui convenait à la personne qu'il rencontrait. Il n'est pas tellement un enseignement préformaté. Bien sûr, il y a les principes que nous avons vus, comme les quatre vérités, par exemple, mais immédiatement, il allait directement sur la personne, avec une... merci. Avec une démarche pédagogique, et on pourrait dire presque thérapeutique, et donc, vis-à-vis de cette personne, il donnait un certain enseignement. Donc, cette personne, souvent, bon, et qui avait eu un contact direct avec le Bouddha en tant qu'homme, souvent c'était quelque chose même qui changeait sa vie. Quand on voit les récits de certaines conversions qui avaient eu lieu à l'époque et la manière dont les gens avaient changé, avaient évolué, avaient découvert des choses en elles-mêmes. Et donc pour ces personnes, c'était quelque chose qui était extrêmement signifiant. Quand par la suite les textes ont commencé, enfin l'enseignement a commencé à être codifié sous forme de textes, cette personne, ou ses descendants peut-être, hein, ou des gens qu'il avait connus, parce que tout ça s'est fait, ça a pris quand même quelques siècles, hein, se rappelait que le Bouddha était passé là, qu'il avait donné un certain enseignement. Dans ce que ces personnes se rappelaient, en fait, c'était l'enseignement qui était adapté au lieu et là où ça s'est passé. Et donc, le Bouddha, après, lui, il allait dans un autre lieu, et peut-être qu'il donnait un enseignement qui n'était pas complètement différent, mais qui pouvait être relativement différent, où il pouvait parler d'autre chose. Donc tout ça, quand vous prenez ensuite quelques siècles de plus, ça peut vous donner des écoles différentes de par le fait que l'information a été amassée de manière différente suivant les endroits et que ce n'était pas forcément la même information à la base. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est quelqu'un, le Bouddha, qui avait beaucoup voyagé et surtout vous rappelez qu'on avait étudié sa vie, qui avait essayé d'amener son enseignement de manière pédagogique. Même au début, il y a eu longtemps une sorte de lutte en lui, où il s'est demandé, est-ce qu'il faut enseigner les hommes ou pas? Parce que ce qu'il avait trouvé était quelque chose qui ne lui semblait pas transmissible. Donc c'était une réalité sur sa personne même, sur ce qu'est l'homme lui-même, mais qui est quelque chose qui ne semblait pas transmissible par les hommes. Et donc, il a fallu, pour qu'il puisse le transmettre, qu'il élabore tout un processus pédagogique. Et vu que cette chose n'était pas transmissible, mais qu'il fallait quand même transmettre quelque chose, c'est sûr qu'à un moment donné, dans ce processus pédagogique, il y a eu une sorte de, comment dirais-je, de réfutation de ce qui a été dit précédemment. C'est-à-dire qu'on partait d'un point qui n'était pas, où il devait dire quelque chose, mais qui n'est pas assimilable par les personnes, donc il a bien dit des choses qui étaient assimilables. Au fur et à mesure, il a fait évoluer les personnes, mais au moment où il a dû révéler ce qui n'était pas assimilable au début, c'est sûr que cet enseignement-là, d'une certaine manière, perturbait ce qui avait été dit précédemment. Parce que on est quand même dans un processus qui n'est pas complètement graduel. Et donc, il a fallu faire évoluer les personnes, et quand ces personnes, donc, en fait, quand on dit les personnes, c'est ses plus proches disciples, dans la réalité, hein. Et donc, quand ces personnes ont évolué, mais ça a pris quand même pas mal de temps, là, il leur a donné autre chose. Et donc, on voit bien que les différentes périodes, qu'entre-temps, il y avait des gens qui l'avaient rejoint, qui avaient quitté leur village, leur ville natale, qui ensuite étaient repartis. Donc, dès le début, on a affaire à quelque chose qui est morcelé. Une autre raison également, c'est que le Bouddha, rompant ainsi avec la tradition du brahmanisme, avait créé un ordre monastique. Donc, cet ordre monastique s'appelle la Sangha, hein, la communauté. Et dans le bouddhisme, c'est un rôle extrêmement important pour la propagation de la doctrine. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, on dit toujours la communauté, la Sangha, mais il y a eu plusieurs Sanghas, en fait, il y a eu plusieurs communautés. D'après les textes, je ne m'en rappelle plus exactement, mais en fait, on constitue une Sangha, je crois, à partir de 3 ou 5 personnes, donc un nombre de personnes extrêmement petit. Donc, il y en a eu qui ont entregroupé, pour l'époque, plusieurs centaines de personnes, mais il y en a qui devaient regrouper 6 ou 7 personnes. Donc, 6 ou 7 personnes, il y a déjà une tradition qui part de là, parce que c'est dans des époques très, très antiques, et avec un enseignement qui est propre. Donc, tout ça pour vous dire que, je pense, probablement 200 ans, 300 ans après la mort du Bouddha, c'est-à-dire même avant l'ère chrétienne, déjà le bouddhisme, il y avait plusieurs écoles importantes et sans doute des écoles mineures qui ont été totalement oubliées aujourd'hui et sur lesquelles on n'a aucune trace. Néanmoins, tout ce qu'on a vu, ce qu'on a appris ensemble au fil de ces conférences, c'est-à-dire la production conditionnée, les quatre vérités, etc., tout ça c'est quelque chose que vous retrouvez dans absolument tous les mouvements bouddhiques. Et si les endroits où on ne le retrouve pas, on peut se demander si c'est du bouddhisme. Ça, c'est un autre débat. Donc, pour revenir donc sur les différentes écoles qui ont vu le jour, je crois que c'est vous qui l'aviez évoqué il y a deux ou trois sessions. Il y a eu la première grande divergence au niveau doctrinal a été la création de ce qu'on appelle le grand véhicule ou Mahayana. En sanskrit. Et par dérision, les mahayanistes, c'est-à-dire les réformateurs, on pourrait dire, ont appelé les gens qui ne les ont pas rejoints, qui sont restés en courant ancien, ont appelé ça des vinayanistes, des gens qui suivent le Hinayana. Alors, j'expliquais un petit peu ce que c'est. Tout d'abord, le terme Hinayana, même qu'on retrouve dans pas mal de livres, est un terme en sanskrit qui est tout à fait péjoratif. Souvent on le traduit en français par petit véhicule en prenant ainsi la traduction en chinois de ce terme, mais la réalité en sanskrit est bien pire, parce que hina, ça désigne quelque chose qui est médiocre et souvent qui est un peu usagé. C'est quelque chose, ça ne sert plus à rien, vous voyez, c'est un vieux bric-à-brac qu'on a chez soi, c'est quelque chose qui est obsolète, hina. Ina, dont j'ai trouvé dans le dictionnaire, délaissé, obsolète et médiocre. Donc c'est pas formidable quelque chose qui est après délaissé, obsolète et médiocre, c'est le moins qu'on puisse dire. Et évidemment, les gens qui pratiquent la doctrine que les gens du Mahayana, du grand véhicule, ont appelé Hinayana, ne s'appellent pas eux-mêmes comme ça. Il y a personne. Yana, en fait, ça veut dire c'est le véhicule, hein, c'est le moyen de progresser. Exactement. Et donc, eux, en général, ces gens-là, donc qui représentent l'ancienne école du bouddhisme, ils s'appellent eux-mêmes Theravada. Et donc Theravada, Thera, ça veut dire l'ancien. Et Vada, c'est le discours. Et donc Theravada, alors Thera, c'était une manière qu'on avait en Inde d'appeler un moine âgé. On l'appelait l'ancien. Et c'était tout à fait honorifique, hein, le fait de l'appeler comme ça. On est dans des époques où, vis-à-vis des personnes qui sont rares, qui arrive à une certaine longévité, il y a énormément de respect, à la fois en Inde et par la suite en Chine. Et donc les gens du Theravada, donc qui était l'école.
Theravada.
Thera. Alors c'est écrit avec un RA en français.
Ah bon.
Oui. Et donc cette école, en fait, il y avait de nombreuses écoles. Je crois qu'on en compte 8. Qui reprennent, on pourrait dire, l'enseignement du petit véhicule. Mais celle-ci est la seule qui ait survécu, réellement, parmi les grandes écoles. Il y en avait d'autres. Et donc, du coup, tout ce qui se rattache maintenant à ce que les gens du grand véhicule appellent le petit véhicule, on appelle ça donc Theravada, c'est-à-dire l'école des anciens. Alors, on va voir un peu quels sont... Ce que je crois, si vous voulez, c'est que contrairement à une idée que l'on trouve ici dans les ouvrages spécialisés en bouddhisme, qui pensent en quelque sorte que ces gens-là étaient une sorte de bouddhisme originel, primitif, et qu'ensuite, les choses ont évolué, ça a pris relativement longtemps, et finalement, il y a une philosophie autre qui est sortie, qui a donné le Mahayana. Personnellement, je ne partage pas du tout cette vue. Moi, je pense que dès le début de l'enseignement du Bouddha, il y avait le courant, on pourrait dire, on va voir quelles sont ses caractéristiques philosophiques, mais que représente l'école des anciens, et il y avait un courant plus philosophique qui est devenu, par la suite, le Mahayana, parce que les deux peuvent tout à fait, on pourrait dire, coexister. Mais après, quand ils ont pris chacun des caractéristiques plus précises au fil du temps, là, la coexistence est devenue sans doute plus difficile. C'est mon interprétation personnelle. Mais quand on lit les sutras, les textes bouddhiques de l'époque, même du Bouddha, on voit qu'il y a déjà les deux courants. Parce que même des sutras très courts et qui sont sans doute très anciens, comme le sutra du cœur, on retrouve déjà tout à fait les caractéristiques du Mahayana. Alors, on va commencer par parler donc de ces gens-là, des Theravada. Alors, où est-ce que l'on trouve cette forme de bouddhisme? Alors, vous trouvez encore un petit peu en Inde, bien que le bouddhisme est essentiellement disparu de l'Inde, mais surtout dans le sud de l'Inde, vers la région de Madras. Toute l'île de Sri Lanka, donc ce qu'on appelait dans le temps Ceylan, en Birmanie, en Thaïlande, au Laos et au Cambodge. Donc, vous voyez, c'est toujours dans le sud, hein. Vous trouvez également un petit peu en Chine, même au Japon, il y a encore certains courants du bouddhisme qui dépendent d'eux, bon, qui maintenant sont devenus extrêmement minoritaires. À la fois en Chine et au Japon, c'est vrai que c'est plutôt le Mahayana qui s'est implanté. Mais par contre, dans les pays dont je viens de parler, la Thaïlande, la Birmanie, enfin Birmanie maintenant c'est un peu spécial, mais au Sri Lanka, je dirais, il y a encore des monastères très importants, et c'est ce bouddhisme du petit véhicule, l'école des anciens, qui est pratiqué. Alors, quelles sont ces caractéristiques? Alors, la première, si vous voulez, c'est qu'il y a un idéal humain qui existe, qui est celui de ce qu'on appelle l'ara. En fait, c'est un terme sanskrit qui signifie en français quelqu'un qui est méritant. Méritant, c'est-à-dire digne d'offrande. Parce que, au début, comme on l'a vu, les moines bouddhistes étaient des gens qui allaient mendier, des moines mendiants, des bhikkhus, donc c'était des gens qui allaient mendier leur nourriture. Ils prenaient un litre pas, je crois, vers 2 heures ou quelque chose comme ça, et donc ils passaient la matinée à mendier cet litre pas. Et ensuite de quoi, ils avaient toute l'après-midi et la soirée pour s'adonner à leur pratique religieuse et à la méditation. D'accord? Donc ces personnes-là, en fait, l'idéal de l'ara, on reprend un petit peu ce qu'on avait vu dans le cours sur les quatre vérités. Pour devenir un ara, ce qu'il faut, c'est avoir épuisé tout le terrain qui crée la souffrance, c'est-à-dire le terrain des désirs, le terrain des passions, ce qu'on avait épuisé les passions. Et donc, ces personnes-là sont des gens qui sont soumis à un entraînement très dur. Dans ce bouddhisme, il y a une différence très importante entre le personnel religieux, mettons les moines et les nonnes, si vous voulez, et le personnel laïque. On pense à un bouddhisme qui est extrêmement graduel. On pense donc que les personnes, pour arriver au stade de ara, il leur faut beaucoup d'existence. Et donc, la personne, s'il est juste un laïque, eh ben c'est pas grave, enfin sauf pour lui, mais il n'a qu'à être bon envers les moines. Éventuellement, comme ça se fait par exemple en Thaïlande, ça lui fait du bien pendant une certaine période de sa vie, enfin surtout pour les hommes, pour les jeunes gens du moins, de devenir moine pendant un certain temps, d'aller donc dans un monastère et de mendier également sa nourriture. Et donc pendant ce temps, où il est un jeune moine, il apprendra les textes,
et après, où il continuera dans la vie monastique, ou à l'inverse, il retournera dans sa famille, il aura un métier, etc. Et donc, c'est un bouddhisme qui est très graduel. C'est-à-dire que dans les jeux, on dit qu'il faut un certain nombre d'existences. Les gens d'ailleurs, le but, c'est pas tellement d'arriver à devenir un bouddha, c'est-à-dire d'arriver à l'éveil. C'est déjà le but de calmer les passions, de façon à ne pas souffrir de ce qu'elles font naître, et d'avoir une vie pacifiée et sereine. Donc c'est le but de ce courant du bouddhisme, c'est également un courant, d'une certaine manière, que l'on peut qualifier d'élitiste. Parce qu'on voit bien là-dedans, dans ce système, que finalement, il y a peu de gens qui parviendront à l'éveil, même il y a peu de gens qui parviendront au niveau d'Ara. Mais ces personnes suivent un grand nombre de, comment on peut dire, de préceptes de vie, du moins pour les religieux, et on trouve souvent des monastères avec un très très grand nombre de moines, hein, parfois même quelques milliers. Hein. Donc c'est quand même quelque chose qui a pu se développer et qui est encore vivace, je dirais très vivace, même dans certaines régions. Alors, vis-à-vis de ça, il s'est dégagé le mouvement, comment dirais-je, de pensée bouddhiste qui est majoritaire aujourd'hui, parce que c'est celui qui a touché les pays les plus nombreux, la Chine, le Japon, la Corée, le Vietnam, etc., et qui est le grand véhicule. Alors, on aura les différentes tendances du grand véhicule. Donc, c'est un mouvement réformiste du bouddhisme qui est né à peu près au début de l'ère chrétienne. On ne sait pas quand est-ce que ça commence à se formaliser. La seule chose, c'est qu'on sait que près de 100 ans après Jésus-Christ, il y a des grands porteurs du grand véhicule qui apparaissent. Et donc une littérature qui apparaît, et également ce qu'on pourrait appeler les sutras, qui sont réécrits dans l'optique du grand véhicule. Donc on dit que tout ça, ça se fait pas instantanément. Et donc pour que un peu moins de 100 ans après Jésus-Christ, il y a déjà ça qui existe, c'est qu'au moins 100 ans, peut-être 200 ans avant, il y avait déjà un mouvement qui s'était séparé du reste, parce qu'il pensait que le reste ne suivait pas l'enseignement bouddhique. Les disputes ont été fortes hein, entre les deux courants, entre le grand et le petit véhicule. Hein. Les disputes ont été extrêmement fortes, parce que vous allez voir qu'on a tout à fait une autre idée des choses dans le grand véhicule, parce que dans le grand véhicule, il y a un autre idéal humain qui est donné que l'Ara, tout à fait un autre, c'est-à-dire parfois on se moque beaucoup de ces personnes, c'est l'idéal, et je pense que vous avez déjà entendu parler, du Bodhisattva. Dans Bodhisattva, c'est-à-dire Sattva, ça veut dire l'être, et Bodhi, c'est l'éveil. Donc c'est l'être d'éveil, c'est l'être qui vit dans la proximité de l'éveil. Dans le petit véhicule, dans l'école des anciens, le seul Bodhisattva qui existe, c'est le Bouddha Shakyamuni, avant qu'il n'ait atteint l'éveil. Donc avant qu'il n'ait atteint l'éveil, c'est un aspirant à l'éveil, c'est un être d'éveil, et donc une fois qu'il a atteint l'éveil, il devient un éveillé parfait, c'est-à-dire un Bouddha. Dans le grand véhicule, on crée toute une littérature avec des bodhisattvas, et donc le bodhisattva, c'est dans le grand véhicule, c'est un être qui pourrait accéder à l'éveil, mais qui actuellement ne le souhaite pas parce qu'il est sensible à la souffrance des autres hommes, vous rappelez la première vérité, la vérité de l'universalité de la souffrance, il est sensible à la souffrance des autres hommes et il veut faire quelque chose vis-à-vis de la souffrance de ces autres hommes. Les textes du grand véhicule regorgent, on pourrait dire, de personnages de différents bodhisattvas, même parfois qui donnent leur vie pour autrui, qui ont donc une action généreuse et compassionnelle envers leurs frères humains, et donc leur but est de soulager la souffrance d'autrui. Du coup, ils soulagent la souffrance d'autrui non pas à travers une action humanitaire, même si le terme pour l'époque n'a aucun sens, mais en apportant à autrui la doctrine bouddhique. Parce qu'ils disent, si moi j'ai réussi à m'en sortir et à diminuer ou à anéantir la souffrance par ce que j'ai compris du bouddhisme, si je l'apporte à autrui, théoriquement, cette autre personne arrivera à faire le même chemin. Et donc, au moins à elle, ça lui sera également salutaire. Donc, du coup, là, on parle bel et bien d'un grand véhicule, parce qu'on est moins dans une démarche élitiste, hein. C'est-à-dire que le grand véhicule est fait pour beaucoup de personnes. Dans le petit véhicule, enfin, tel que le voient les spectateurs du grand véhicule, le petit véhicule est petit parce qu'il est fait pour peu de personnes. Alors, revenons maintenant sur cette grand véhicule, donc, comme je l'ai dit, donc, petit véhicule, en sanskrit, c'est Hinayana, et grand véhicule, c'est Mahayana. Maha veut dire effectivement grand, et Yana, c'est véhicule ou moyenne progression, d'accord. Donc là, la traduction grand véhicule est tout à fait littérale. Dans le cas de Hinayana, normalement, Ina, donc comme je vous l'ai dit, ça veut dire médiocre, usé. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on dit petit véhicule? Parce qu'on peut dire, enfin bon, ça serait pas gentil, hein, mais on pourrait appeler ça le véhicule médiocre ou le véhicule obsolète, ou j'espère, voilà, pas la pression que vous voulez. Parce qu'en fait, on reprend, on traduit au mot à mot la traduction chinoise qui est Xia Cheng. Et grand véhicule, et effectivement, les Chinois ont traduit petit et grand quand ils ont traduit les termes sanscrits. Alors pourquoi ils n'ont pas mis le véhicule usé, etc. Parce que vraiment, à l'époque où le bouddhisme, quand le bouddhisme s'est transmis en Chine, les deux leur sont arrivés à peu près en même temps. Et donc, ils ne pouvaient pas, eux, dire vis-à-vis des personnes, bon, en Inde, ça fait déjà 500 ans que ça existait à peu près, mais ils ne pouvaient pas dire, en quelque sorte, aux personnes, sauf deux choses qui arrivent en même temps, c'est deux nouveautés. Et donc, on pouvait pas qualifier une nouveauté de quelque chose d'usagé, d'usé, de médiocre, etc. Donc, ils ont essayé de voir, au niveau du sens, comment désigner cette chose, sachant qu'ils ne pouvaient pas dire que c'est un vieux truc, vu qu'en Chine, ça venait juste d'arriver, hein. Donc, ils l'ont appelé « petit ». Sachant que le terme petit, enfin moi en français c'est aussi le cas, mais n'est jamais en Chine par exemple quand on dit Skaren, c'est-à-dire un petit homme, les petites gens, c'est vraiment péjoratif, c'est-à-dire vraiment les gens mesquins, les gens très, très vulgaires, etc. C'est pas qu'ils sont petits par la taille. Enfin ça peut vouloir dire aussi un homme qui est de petite taille, mais quand on dit Skaren par exemple, donc avec le caractère homme à côté, c'est les petites gens, quoi. Comme dans le temps on peut dire le petit peuple, mais quelque chose de forcément très péjoratif, je trouve. Et donc là, en disant le petit véhicule, on était dans quelque chose d'assez péjoratif et qui voulait traduire le côté élitiste. C'est-à-dire, autant le grand véhicule, c'est un... Bon, pour l'époque, véhicule, ils voyaient ça comme une sorte de, je sais pas, de char ou quelque chose comme ça, un peu de charrette, hein. Et donc, dans le grand véhicule, on peut être beaucoup de gens, hein. C'est un truc donc pour le transport en commun assez important. Et le petit véhicule, c'était vraiment la petite calèche, quoi. Et donc, le but, c'était de donner une certaine forme de dérision, mais évidemment que les gens qui font partie de cette école n'acceptent pas du tout ce genre d'appellation péjorative. Alors donc, le grand véhicule, lui, plutôt que d'essayer un parcours qui soit uniquement individuel, qui consiste à réfléchir sur ma propre personne, à voir vis-à-vis des différents désirs que j'ai, comment je peux les minorer, comment je peux les anéantir, etc., il dit, attends, avant de réfléchir sur toi-même, il y a des hommes qui souffrent. Il y a des hommes qui souffrent. Si toi, tu réussis à te dégager suffisamment de la souffrance pour pouvoir réfléchir sur toi-même, alors tu peux apporter quelque chose à ces hommes qui souffrent. Donc vous voyez qu'on est complètement dans une problématique qui est autre. Ce qui n'empêche pas que les gens qui ont pratiqué le grand véhicule, on va voir les différents mouvements qui en font partie, ou il y a quand même beaucoup de mouvements qui en font partie à l'heure actuelle, ont développé différents moyens de recueillement et d'introspection. Ce n'est pas uniquement une action qui est tournée vers l'extérieur. Alors, le grand véhicule est une école donc réformiste, hein, et à l'idéal monastique de Lara, elle oppose celui de Bodhisattva, que sa compassion porte à rechercher le salut des êtres, autant que le sien propre. C'est-à-dire que dans le grand véhicule, il y a quand même l'idée qu'on ne pourra pas s'en sortir tout seul. Je partage trop de choses avec les autres êtres, pour que je puisse m'en sortir indemne et tout seul, ou alors, pour les gens du grand véhicule, ou alors c'est que je ne m'en serais pas sorti. Alors, où est-ce que l'on trouve le grand véhicule, encore à l'heure actuelle?
eh bien, vous trouvez dans la plupart des pays de l'Extrême-Orient, c'est-à-dire la Chine, la Corée, le Japon, le Tibet, le Vietnam et la Mongolie.
Alors, le Japon également.
Oui, oui. Le Japon est à... Je ne sais pas statistique, mais enfin, il y a très très peu de mouvements du petit véhicule au Japon. Il y en a quelques-uns, c'est vraiment dans les temps très spéciaux, très précis, etc. Mais globalement, je pense que plus de 95% de... Enfin, je n'ai pas de statistique, mais comme ça, vu d'œil, hein, des bouddhistes japonais ressortissent du grand véhicule. Alors, le grand véhicule a entraîné également la constitution de toute une littérature extrêmement importante. Et alors là, qui se dégage beaucoup de la littérature du petit véhicule. Dans cette littérature, on trouve en premier des sutras, donc qui sont les textes qui relatent des scènes liées à la vie du Bouddha et à son enseignement. Et alors c'est vrai que dans le grand véhicule, on essaie de faire de ces sutras une sorte, pour l'époque, comment on peut dire, d'art global, de moyen d'expression globale. Parce qu'on met de la poésie dedans, on met des scènes même parfois complètement fantasmagoriques hein, dedans. On fait intervenir des personnages extrêmement rares qui viennent d'autres dimensions, ou des divinités, ou des dragons, ou des choses comme ça. Parce qu'il y a vraiment un peu je ne sais pas ce qu'on trouve en Occident, par exemple dans l'opéra, pour avoir une idée. C'est-à-dire qu'amener avec l'opéra... Comment ?
Leur opéra, c'est ça, il y a des dragons, des...
Oui, oui.
Hein, des
oui, oui.
Présentations.
Tout à fait. Et donc tout ça débouche donc dans les sutras du grand véhicule, alors que les sutras du petit véhicule, eux, décrivent le Bouddha qui arrive dans un village et il se passe rien qui transcende la raison. Mais les sutras du grand véhicule, alors souvent, sont chargés d'un symbolisme extrêmement fort. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un symbolisme, ce n'est pas le fait que telle chose symbolise autre chose, mais c'est qu'il y a une manière de noter un certain nombre de phénomènes, et surtout de phénomènes, on pourrait dire, du mental, très imagé, et donc qui font appel à toutes sortes d'images poétiques, on pourrait dire. On se sert beaucoup de la poésie rythmée, également évidemment de la prose. Donc il y a les sutras du grand véhicule sont quelque chose, bon certains sont assez importants par la taille, d'autres sont petits, mais il y a quand même beaucoup de mouvements dans ces sutras. Et une autre chose qui a été développée par la littérature du grand véhicule, c'est ce qu'on appelle les sastras, c'est-à-dire les traités, et là il y a eu quand même vraiment une éclosion philosophique, on le verra un petit peu en étudiant les différents courants du grand véhicule, extrêmement importante. C'est-à-dire que le grand véhicule a permis l'expression d'une philosophie très importante en Inde et ensuite qui a été relayée en Chine et puis après en Corée et surtout au Japon. Et donc ces gens-là ont écrit beaucoup de traités, beaucoup de commentaires des textes, mais souvent des traités même qui vont bien au-delà des textes. Et surtout, c'est à travers le grand véhicule qu'a pu se faire une sorte de chose qui, à mon avis, est unique, probablement dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire la jonction entre deux grandes civilisations très 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 différentes, qui sont, et très anciennes toutes les deux, qui sont d'un côté la civilisation de l'Inde, donc avec des langues qui ressortissent du même groupe que nos langues à nous, c'est la langue indo-européenne, et de l'autre côté, la civilisation chinoise. Alors ce qu'il faut bien voir, enfin bon, là-dessus il y aurait énormément à dire, donc je ne veux pas m'étendre trop, mais c'est que c'est deux civilisations où certes il y avait des contacts, et le bouddhisme est arrivé par les caravanes, etc., même à la faveur souvent de contacts marchands, il y avait des contacts, mais les deux cultures ne se connaissaient pas beaucoup mutuellement. Bon, entre les deux, il y a quand même toute la frontière naturelle que forme la chaîne himalayenne, et donc on prenait ce qu'on appelait la route de la soie qui contourne l'Himalaya et qui arrive, on pourrait dire, par l'ouest, pardon, en Chine, en passant par les oasis, par les déserts, le désert du Taklamakan, de Gobi, etc., et donc qui ensuite déboule sur le nord de la Chine. Il y avait également des liaisons maritimes qui, elles, arrivaient plutôt dans le sud de la Chine, la région de Canton. Et, mais il n'y a pas eu... Ces civilisations étaient quand même très étrangères l'une à l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu une réflexion, que je sache, de la part des Indiens sur la civilisation et la culture chinoise, ni l'inverse. Par contre, quand les textes du bouddhisme écrits la plupart en sanskrit vont arriver en Chine, quand on va commencer d'essayer de les traduire, qu'il n'y a pas que de mince à faire, là, il va y avoir vraiment une réflexion. Et donc, à un moment donné, il va se passer quelque chose qui est assez unique, c'est-à-dire que dans l'esprit de certains, donc qu'ils soient ou des Indiens ou des gens des zones de la route de la foi qui ont amené le bouddhisme en Chine, ou de la part des Chinois qui, eux, ont regardé ces textes et ont questionné les gens qui les ont amenés, c'est-à-dire que d'un coup, il va y avoir une sorte de cocktail qui va s'élaborer, qui, je crois, quelque chose qui était extrêmement unique dans l'histoire de l'humanité, entre d'un côté le monde vraiment de l'extrême-orient et de l'autre côté les civilisations indo-européennes. Et donc on est dans des échelles de valeurs qui sont différentes complètement d'un côté comme de l'autre et dans des langues complètement différentes. Et à partir de là, il va s'élaborer quelque chose qui va être original et qui va prendre des deux côtés à la fois. Et le grand véhicule est complètement porteur de cela. Donc ça a mis des siècles à s'élaborer. Alors, avant que de partir de l'Inde, il y a quand même deux tendances que l'on va trouver dans le grand véhicule et qui vont influencer tous les mouvements qui vont ensuite se développer, qu'on va voir en Chine et puis après au Japon, au Tibet, etc. Et alors, on va voir que, en fait, les gens vont se rallier à l'un ou à l'autre de ces deux mouvements, ou faire des mélanges en étant un peu plus de l'un, un peu plus de l'autre. Et alors, ces deux mouvements, on peut dire d'une certaine manière, j'avais déjà parlé, je pense, dans le... les cours précédents de la prajna, c'est ce qu'on peut appeler, ce qui est souvent traduit en français par sapience. Alors le mot est ancien, c'est un mélange de sagesse et de science. Je pense qu'il y a aussi le mot sagesse, bon, qui est peut-être plus simple, mais qui est plus compréhensible. C'est-à-dire la sagesse qui est celle de lucidité que d'éveil, qui éveille le bouddhisme. C'est aussi la compréhension du dharma ou des dharmas. Alors les dharmas, pour reprendre rapidement, ce sont ce qu'on va appeler ce qui supporte les constituants du réel. Ça vient de la racine dre, qui signifie supporter. Et le dharma, c'est ce qu'on traduit souvent par la loi, c'est ce qui fait que les choses soient, hein, d'une certaine manière pour... Et donc, l'attention, la vigilance vis-à-vis des dharmas, l'observation des dharmas, l'observation des choses, l'observation des êtres, développe une certaine forme de sagesse spécifique, qui est la sagesse bouddhique, qui est la prajna. Et donc, là, nous avons l'une des tendances du bouddhisme, qui a été surtout développée par un penseur, qui date du 2e siècle après Jésus-Christ, du nord de l'Inde, qui est Nagarjuna. Qui est quelqu'un qui a inventé un système qu'on appelle la voie du milieu, le Madhyamika. Et en fait, bon, je ne vais pas résumer sa pensée, si vous voulez, en deux mots, mais qui est Nagarjuna. Je vais quand même essayer d'en dire quelques mots, même si pour un grand penseur comme ça, le décrire en quelques minutes, c'est un peu une gageure. Est quelqu'un qui a beaucoup développé l'observation, la dialectique mentale, et qui ne veut pas être dupe. Qui ne veut pas être dupe, en premier, du langage et des concepts. Parce qu'il dit, les langages, tout ça, c'est bien pratique, mais est-ce que ce n'est pas, on pourrait dire en quelque sorte, prédéterminé ? le fait que je pense avec des mots, que dans mon esprit ces mots ont une certaine signification, que ces mots entraînent tout seul, hein, ça marche bien, des enchaînements, est-ce que je ne suis pas prisonnier de ces enchaînements? Par exemple, vous avez toutes sortes de... je ne sais pas comment dire, de manière où Nagarjuna décortique les concepts. Hein. Il dit par exemple, est-ce qu'on peut imaginer, je ne sais pas, par exemple, un marcheur sans marche? C'est comme dans la chanson, un barbu sans barbe. Il dit parce que finalement, quand on dit un marcheur, c'est quelqu'un qui accomplit une marche. Donc si je dis qu'il accomplit une marche, c'est-à-dire qu'il faudrait que la marche soit différente du marcheur. Donc est-ce qu'il y a des marches qui sont sans marcheur? Vous voyez? Donc c'est très étrange hein, comme pensée. Et donc, au bout du compte, il dit, on pense, le langage est un outil qui est pratique et qui est peut-être trop pratique pour décrire la vie intérieure de l'homme, la vie réelle de l'homme. Et donc, du coup, parce qu'on a cet outil qui est trop pratique, c'est pas seulement le langage pour parler, c'est également les concepts, hein. Et donc, il dissèque tout ça très bien, souvent on renvoie les choses dos à dos. Et finalement, lui, il arrive à développer beaucoup l'idée de la vacuité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on a vu dans la production conditionnée, chaque dharma, chaque chose individuellement, dépend à des degrés différents de tout le reste à la fois. Et donc, vu qu'aucun n'a en eux-mêmes leur propre raison d'exister, qui dépend de tout le reste, le seul fait de les abstraire de la totalité du réel est déjà un acte qui permet effectivement de les identifier, de mieux les voir, mais également un acte qui est en partie trompeur. Parce que une chose est conditionnée par beaucoup d'autres. Je donne souvent comme exemple, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais c'était un film qui était drôle, où il y avait une personne, un aviateur qui passait au-dessus de l'Afrique et qui balançait une bouteille de Coca-Cola en dessous, et donc la bouteille, elle tombe dans une tribu autochtone. Et là, la bouteille, elle est sortie de son contexte. Parce que nous, on dit que c'est une bouteille de Coca-Cola. Mais pour les gens, déjà, il y en a un premier qui fait... Comment ? Et donc le premier donc, qui se le prend, bon après les gens font différents usages de la bouteille en question, et donc là, elle est sortie de son contexte. Et alors que nous, avec les mots, on est toujours dans le contexte et qu'on se sert des choses comme elles doivent être utilisées. Donc les mots guident la pensée. Et donc finalement, à travers cette doctrine, on arrive à la notion de la vacuité, et puis finalement on arrive à réfuter beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas affirmer énormément de choses, mais on peut en réfuter beaucoup. Donc c'est une première école, et on va voir, on va marquer beaucoup la suite. La deuxième, c'est l'école du dhyana. Alors dhyana, je pense que, souvent, on traduit méditation. Personnellement, j'aime pas beaucoup cette traduction. Je l'aime même pas tellement. Je préfère de beaucoup le terme de recueillement. Parce que méditation, on a l'impression que c'est une pensée discursive. C'est-à-dire que je médite sur un certain nombre de choses, un certain nombre d'idées me viennent. Alors que là, c'est pas vraiment ça. Recueillement. Là, c'est plutôt une pensée. Alors, j'ai trouvé dans les textes bouddhiques une définition. C'est une concentration apaisée et introvertie. C'est pas seulement... Vous voyez, donc la méditation, c'est quelque chose qui est discursif. Et donc là, en fait, c'est une simplement... Par contre, on peut avoir, lorsqu'on pratique le dhyana, même un objet extérieur qui permet en premier de fixer l'attention. Et puis ensuite, on apprend à détacher l'attention de l'objet en question et voir qu'est-ce qu'il pense. Qu'est-ce qu'il pense en nous? C'est quoi qu'il pense? Et quand on va à l'origine de cette chose, il y a quoi? Donc c'est plutôt un mouvement de... Et on voit que certaines sectes, ou certains mouvements du bouddhisme, ont beaucoup développé ça. Et alors, les gens qui ont développé le dhyana, il y a rien. Au même titre qu'ici, il y avait un grand penseur, c'est Nagarjuna. Là, il y en a plusieurs, mais il y en a au moins un qui a été important. Enfin, ils ont tous été importants, si vous voulez. Mais surtout qui a été beaucoup traduit, Vashubandhu, il s'appelle, qui a été beaucoup traduit en chinois, parce que l'un des plus grands traducteurs, c'était Song Zhang, des textes sanscrits en chinois,
appartenait à ce courant du Dhyana, et notamment à l'école spécifique de Vaishnubandhu. Et cette école est souvent décriée comme étant les yogacarines, c'est-à-dire les pratiquants du yoga en français. Alors, il y a eu beaucoup d'échanges entre cette école et l'une des 8 branches de l'hindouisme, qui est le yoga. Mais ici, alors, ces gens-là pratiquaient un yoga qui n'était pas, pas physique. Ils arrivaient, parfois respiratoire, mais pas physique en tous les cas. Et leur mouvement était aussi bien connu, enfin connu, sous le nom de sa traduction en chinois, qui est de rien que conscience. Parce que ces gens-là, eux, ils pratiquent le recueillement, et ils arrivent, par le fait, à la conscience. Qu'ensuite, ils vont vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils voient les choses, les êtres, etc., ils se rendent compte que, finalement, alors ça peut paraître presque un peu bête à dire, mais c'est très très profond, l'idée que j'ai des choses, enfin toute la connaissance que je peux en avoir, tout ce que je peux savoir, n'est que la conscience que j'ai des choses. C'est-à-dire que nous, on part toujours de l'idée qu'il y a quelque chose à connaître qui est à l'extérieur. Par exemple, je ne sais pas, je vais apprendre la géologie, mettons. D'accord, j'y connais rien, je m'achète des bouquins, et puis je ne sais pas, je vais regarder des... Et donc une sorte de savoir, je dirais, scientifique. Et donc je pense que la géologie, ou la constitution des minéraux, des terrains, de tout ce qui forme la géologie, ça existe indépendamment de moi. Vu qu'il y a une époque où je ne m'intéressais pas, et puis maintenant je décide de l'apprendre. Et puis après que je ne serai plus là, il y a des gens encore dans 200 ans qui apprendront la géologie, puis il y en avait qui l'ont appris auparavant. Les gens du Dhyana, donc du rien de conscience, ils disent « Salut tout monsieur ». Ils disent « Vous n'avez aucune idée, vous n'aurez jamais une idée de ce que pourrait être la géologie hors de votre cerveau ». Ça paraît... c'est très loin de la pensée occidentale, ça. Mais pourtant, c'est vrai, je veux dire, si on regarde les choses avec humilité, tout ce que je pourrais faire, tout ce que je sais des choses, ben, c'est ce que j'en sais. Ça m'est arrivé quand même bien souvent, à moi comme à tout le monde, qu'il y a des choses que je croyais vraies, et puis, au bout du compte, qui ne le sont pas. Et ces choses que je croyais vraies avaient déclenché en moi des sentiments divers, de l'approbation, de la haine, de tout ce que vous voudrez, etc. On donne souvent, par exemple, dans le bouddhisme, l'exemple de la personne qui rentre dans sa maison, où à l'époque il n'y a pas d'électricité comme maintenant, donc le truc ne devait plus éclairer, et voit un serpent sur le sol. Et donc il a peur, etc. et tout, et puis au bout du compte, il apparaît que le serpent c'est une corde qui avait été laissée là par un enfant, je ne sais pas quoi. Mais donc, quand même, au moment où il a vu le serpent, il a eu quand même vraiment peur. Et il a peut-être pris des mesures pour chasser le serpent, et après en voyant que ça ne bougeait pas, il se rend compte que c'était une corde. Et donc, les choses ne sont que la représentation qu'on en a. Mais en même temps, le fait qu'il n'y ait pas de... Comment dirais-je? Qu'il n'y ait pas de... Ce n'est pas limitatif. Parce qu'au moins, il dit que sur ce dont vous êtes conscient, vous pouvez quelque chose. Le monde, pour vous, pour chacun d'entre nous, est limité à ce qu'il en perçoit, ce qu'il en connaît. Mais au contraire, ces gens-là, on va voir, eux, contrairement aux tenants de la prajna et de dharma, etc., eux, finalement, on va voir qu'ils arrivent à faire beaucoup d'affirmations. C'est étonnant parce qu'on est parti de quelque chose qui était tourné vers l'intérieur, mais en sorte, le fait qu'ils délimitent, il y a quand même un usage, en quelque sorte, du doute. C'est-à-dire qu'on doute de toute chose, et puis au bout du compte, on dit, ben, quand même, ce dont je ne doute pas trop, c'est le fait que les choses soient telles qu'elles m'apparaissent dans mon esprit. Ça peut être changeant, ça peut être comme vous voudrez, mais au moins, ça, pour moi, c'est. Je ne sais pas si le monde continuera d'exister après moi ou pas. J'en ai aucune idée. Au moins pour moi, non. C'est tout ce que je peux dire. Mais le fait que pour l'instant, le monde m'apparaisse, donc là-dessus, et là-dessus, vous avez toute la, comment dirais-je, toute la, le système bouddhique de la perception, qu'on a bien vu, hein, par exemple, notamment dans les 12 liens, quand on a fait 12 liens causaux, c'est-à-dire cette manière de couper le temps très très fin et de bien comprendre les phénomènes perceptifs, ces gens-là, eux, arrivent, d'une certaine manière, à affirmer davantage, même si c'est sur un territoire qui est plus étroit, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Mais donc, ces deux mouvements existent en Inde, partent en Chine, et en fait, la plupart, pas tous, mais des mouvements qui vont se créer vont prendre un peu chez l'un ou un peu chez l'autre, ou en totalité chez l'un ou en totalité chez l'autre. Donc, il y aura toujours dans le bouddhisme, par la suite, des apports qui viendront de l'observation des dharmas et des apports qui viendront de la pratique du recueillement. Et donc, il y aura toujours dans le bouddhisme, comment dirais-je, une attention aux phénomènes et une manière de, comment dirais-je, de concentration intérieure et apaisée. C'est-à-dire qu'on ne sera jamais, par exemple, comme dans le cas de la... uniquement, par exemple, de la science, c'est-à-dire uniquement observant et trouvant les lois vis-à-vis de l'extérieur, ni, comme on pourrait dire dans certains cas, psychologique, uniquement dans une réflexion sur le mental. On sera toujours dans le bouddhisme, à des degrés divers, avec les deux choses à la fois. C'est-à-dire un regard projeté sur l'extérieur et un regard, on pourrait dire, projeté à l'intérieur. Et, chose étonnante, c'est que c'est le regard projeté à l'intérieur qui permet de faire des assertions, et c'est le regard projeté vers l'extérieur qui fait douter de tout. C'est le... Alors maintenant, on va voir un petit peu quelles sont les différentes écoles du bouddhisme qui sont nées de ça. J'ai repéré tous les cinq grands courants, mais je ne prétends pas être exhaustif. Hein, donc il y a donc des choses, mais des courants... Alors j'ai pris que des courants qui existent encore à l'heure actuelle. Parce qu'il y a des courants qui n'existent plus, bon, qui peuvent être extrêmement intéressants, mais au moins je pense que vous partiez de cette série où il y a une obsession en ayant un peu une idée de ce que c'est que le bouddhisme, les différentes écoles, vu que c'est surtout le grand véhicule que l'on connaît maintenant, à l'heure actuelle dans le monde. Alors, le premier mouvement, qui est d'ailleurs sans doute le plus important par le nombre, et qui est quelque chose qui est un peu original dans le bouddhisme, c'est ce qu'on appelle l'amitisme. Je pense que déjà vous avez parlé de ce terme. L'amitisme était extrêmement répandu et en fait qui vient du nom d'un Bouddha qui existe dans la littérature, hein, qui n'est pas historique, qui s'appelle Amitabha. On dit Amitabha, Amitayus. Amita, c'est-à-dire plus ou moins donc privatif. Amita, plus ou moins infini. Hein.
Alors, c'est une école qui est en référence au nom du Bouddha Amita. En chinois, ça se dit Nyenpo et en japonais Nenbutsu. Nen signifiant penser et Butsu le Bouddha, donc penser au Bouddha. Souvent également, on appelle ça le mouvement de la terre pure. Alors c'est une école chinoise du bouddhisme. En Inde, ça existe pratiquement pas ça. Il n'y a pas d'école, il n'y a jamais eu, par exemple, c'est vraiment un produit, on pourrait presque dire, pour l'importation. Probablement, on pense que c'est quelque chose qui s'est fait par des emprunts à d'autres religions et qui était situé sur le parcours de la route de la foi. Donc on pense que c'est probablement, il y a des influences là-dedans iraniennes de l'époque, hein, comme le mazdéisme, peut-être même le christianisme, parce que c'est quelque chose qui a beaucoup enfin, du moins qui nous, quand nous le voyons maintenant, nous semble avoir des traits communs avec le christianisme. Donc les puristes du bouddhisme disent quand même un peu qu'est-ce que c'est, quoi. Mais c'est quand même le mouvement bouddhiste qui a été le plus répandu au niveau du nombre de personnes. Alors, on va voir pourquoi. Alors, selon cette école, alors là c'est vraiment du très grand véhicule en quelque sorte, hein, c'est vraiment pour tout le monde, c'est pas du tout élitiste. Tout le monde peut être sauvé dès lors qu'on concentre sa pensée sur le Bouddha Amita, qui est un personnage qui apparaît dans un certain nombre de textes. Et que l'on prononce son nom dans une invocation qui est l'invocation amidisme. Alors, il apparaît, l'amidisme s'est répandu en Chine depuis le 6e siècle, c'était le mouvement le plus populaire, et en fait, ça s'est répandu, mais comme une traînée de poudre. C'était sans doute, dans l'humanité, l'un des mouvements qui s'est répandu le plus vite, on pourrait dire. Essentiellement parce que c'est arrivé, je pense, dans des époques extrêmement troublées, très très difficiles à vivre pour les personnes, des périodes de guerre civile, où d'un coup les gens manquaient complètement de repères, et quelque chose comme dans l'amidisme, on dit de toute façon, on n'arrivera à rien d'autre vivant. au maximum, si on pratique l'invocation amidiste, on peut espérer, enfin non seulement on peut espérer, mais à coup sûr, après la mort, on renaîtra dans le, comment dirais-je, la terre de félicité du Bouddha Amita. Cette terre de félicité se trouve à l'ouest, en plus elle est localisée. Et donc les gens devaient se tourner vers l'ouest au moment de mourir. Ce qui est important, on dit, c'est de concentrer sa pensée sur Amita et de se rendre compte que tout dépend de lui. C'est-à-dire c'est lui, en fait, ce Bouddha-là qui nous sauvera parce qu'il en a fait le vœu et parce qu'il a une compassion qui est infinie. Donc il y a l'idée, vous voyez, que ce monde, un peu comme dans un passage du Christ, est une vallée de larmes. Et que ça va pas être, ça va pas être drôle, mais que Amita peut nous sauver. Dans le bouddhisme, si vous voyez, traditionnellement, on distinguait, pour que la pratique du bouddhisme fonctionne, quatre forces qui devaient être mises en mouvement. Il y avait la force du Bouddha, la force de la loi, c'est-à-dire de la doctrine, la force de la foi et la force de la pratique. On voit bien que la force de la foi et la force de la pratique, c'est-à-dire les pratiques des assises bouddhiques, elles dépendent de la personne. Que la force du Bouddha et la force de la loi, on peut dire que c'est extérieur, si on veut, mais qu'il y a un mélange de choses extérieures et intérieures qui doivent jouer. Dans l'amidisme, pas du tout. C'est-à-dire uniquement, on s'en remet à la force extérieure, la force de l'autre, on appelle ça, qui est celle d'Amita, et qui seule peut nous sauver. Alors ce mouvement s'est énormément répandu en Chine, ensuite dans tout l'Extrême-Orient. Vous le trouvez au Vietnam, vous le trouvez en Corée, etc., au Japon. Au Japon, il a pris une importance particulière, parce que là, ils ont poussé les choses encore plus loin, ce qui s'est passé souvent dans le bouddhisme qu'ailleurs. C'est-à-dire que souvent quand même en Chine, l'amidisme était quand même mélangé avec d'autres pratiques bouddhiques et davantage d'études de textes, etc. Mais alors, au Japon, c'est devenu vraiment un mouvement où il n'y a que la récitation de la formule amidiste et le fait de la concentration de la pensée sur Amita qui est salvifique. Tout le reste ne sert à rien. Notamment, un des grands réformateurs qui s'appelle Shinran de l'amidisme, qui a vécu au XIIIe siècle, qui a fondé la nouvelle école de la Terre pure, lui, il dit que bon, ben, même les pratiques servent à rien, quoi, globalement, même la vie monastique, il était l'un des premiers moines à se marier, même je crois qu'il a eu, il est assez mouvementé, et donc lui dit, il faut s'en mettre uniquement à Amita. Et pour un peu se moquer de lui, souvent, ses adversaires ont appelé son école l'école unidirectionnelle. Alors parce que ces gens se tournaient vers l'ouest, d'une part, et aussi unidirectionnelle dans le sens de quelque chose qui est un peu unilatéral quelque part. Enfin, il n'empêche que ça a été sans doute le mouvement le plus populaire, et encore aujourd'hui en Asie. On comprend un petit peu pourquoi. Il y a quand même une compassion qui s'exerce, un certain dolorisme également, qui sont assez étrangers d'une certaine manière, enfin, pas la compassion, mais le dolorisme, hein, à l'esprit du bouddhisme. Et, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu le film de Kurosawa, qui s'appelle L'âme, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais à un moment donné, on voit, donc qui se passe je crois au XVIe siècle au Japon, et on voit à un moment donné deux personnages de nobles, une sœur et son frère, qui fuient, et à un moment, bon, il leur arrive des choses terribles, hein, et amené, la femme, elle dit, vraiment, puis tout le pays est en guerre, en fait, ça fait la panique, et elle dit vraiment, le monde a été abandonné à la fois par les Bouddhas et par les dieux. Et le frère, alors, dans le film, il lui répond quelque chose, oui, mais il reste encore Amita, quoi, c'est-à-dire que vraiment, l'idée que c'est... Et dans les littératures japonaises, on trouve aussi des choses assez drôles, parce que vu qu'il suffisait de prononcer une seule fois l'invocation amidiste, on trouve des gens qui étaient donc des sortes de libres penseurs, qui évidemment qui n'avaient pas voulu la prononcer, et donc quand le gars il est sur son lit de mort, à l'agonie pratiquement, il y a toute la famille bien pensante qui est réunie autour de lui, qui font n'importe quoi pour lui faire rester, puis alors il dit oui ou non, hein, mais... Donc c'est une école du bouddhisme, qui à mon avis, je crois, enfin, je ne sais pas, mais peu représentée en France, que je sache, sinon auprès des populations asiatiques, hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hein. Je sais pas, mais enfin, a priori, ils sont peu visibles à l'œil. Mais bon, moi j'ai vu des temples dans le 13e, etc. Alors, là-bas, attention, parce que là-bas, ça peut être utilisé par différentes sortes de personnes. Moi, je suis allé un jour où il y avait des Cambodgiens, par exemple, donc il y a un peu toutes sortes de choses. Mais, oui, les Tibétains également. Mais c'est quand même une des choses qui est étonnante, c'est que quand même l'amidisme, qui est quand même, à mon avis, le mouvement bouddhiste le plus populaire en Extrême-Orient, et pratiquement partout, ça n'a pas été un produit d'exportation. Et, mais alors, ce qui est drôle, si vous voulez, c'est qu'on trouve, quand on est en Asie, on trouve la même chose. Parce que moi, j'ai trouvé des sectes chrétiennes, quand j'étais, par exemple, à Tokyo, que je ne connaissais pas du tout, et qui, quand on est là-bas, les gens disent, ben attendez, le christianisme, c'est nous. Et bon, moi, j'étais il y a longtemps, à l'époque, le pape n'était pas, parce que depuis, le catholicisme est devenu assez, bon, c'était pas obligé du cours d'aujourd'hui, mais populaire au Japon, après la visite du pape, et, enfin, du pape qui est avant, hein, et tout, mais bon, moi, j'étais dans les années 76-77, et donc, je trouvais des trucs que je connaissais même pas du tout, hein, dans le christianisme. Et pour les Japonais, le christianisme, c'était ça. Et moi, je disais, attendez, il y a le catholicisme, il y a les orthodoxes, il y a tout ça. Enfin, vous croyez, les gens le disaient. Donc, vous voyez, il y a une sorte de... Alors, une autre école, qui est également, je pense, peu représentée ici, qui est l'école de la guirlande de fleurs, Huayanzhong en chinois, Kegongchu au Japon, qui est une vieille école, qui a été fondé au 7e siècle par un moine qui s'appelle Dushun. Et dont le système doctrinal a été développé par un autre moine qui s'appelait Fatsang, qui est mort en 712. Alors, cette école est intéressante parce que il y a une réflexion sur l'enseignement bouddhique et d'essayer de trouver parmi tous les sutras un sutra qui leur semble plus important que d'autres. C'est-à-dire que c'est déjà des gens, on aura une démarche analogue et à un autre niveau, on verra tout à l'heure avec l'école du Kyentai, mais c'est des gens donc, qui réfléchissent sur l'ensemble des enseignements bouddhiques et qui se rendent compte que dans toute la littérature de sutra, il y a des choses qui sont contradictoires. Et de là, ils développent l'idée que c'est un des sutras qui était dans les premières périodes d'enseignement du Bouddha. Qui est donc le sutra de la guirlande de fleurs, d'où le nom de cette école, parce que c'est vrai qu'on dit ici guirlande de fleurs, ça fait un peu exotique, hein, mais c'est un mouvement assez important. Alors ces gens-là développent, eux, ils sont plutôt, mon tableau a disparu, oui. Eux, ils sont plutôt... du côté du Dhyana, c'est-à-dire du travail de l'esprit. Et de comment l'esprit fonctionne. Et souvent, quand même, il y a beaucoup de choses qu'on attribue dans l'idée qu'on a du bouddhisme, mais on va voir qu'il existe dans cette école. Alors, c'est des gens qui sont effectivement... qui ont beaucoup réfléchi sur la production conditionnée, donc qu'on a déjà vu ici, et ils en tirent une sorte de relativisme de tous les phénomènes. Et ce relativisme, c'est que les phénomènes ne sont que la manière dont ils apparaissent dans notre esprit. Alors j'ai trouvé un extrait d'un de leurs textes, d'un de leurs sutras, et dit « L'esprit, comme un peintre talentueux, trace toutes sortes de cinq ombres. » Les cinq ombres, on a vu, c'est les composantes du monde et de la personnalité. « Dans tous les mondes, il n'est pas de dharma qui ne soit son œuvre. » C'est-à-dire que l'esprit, c'est une sorte d'idéalisme, c'est l'esprit qui crée toutes choses. « Le Bouddha, étant cela, pareil à l'esprit, et pareil au Bouddha sont les êtres. » Alors, ils reprennent également des éléments de la pensée de Vashubandhu, donc on est dans ce domaine-là. Donc, c'est une école qui est importante, qui à l'heure actuelle n'est pas extrêmement présente, mais enfin, on trouve encore beaucoup de temples, hein, en Chine et au Japon. C'est beaucoup moins important numériquement que l'amidisme, hein, mais il y a des fondements philosophiques qui sont plus importants. Alors il y a une troisième école, enfin école mettant une troisième tendance, qu'on connaît un peu mieux peut-être ici, qui est ce que j'appellerais le tantrisme. Alors donc, les écoles tantriques, ce sont des écoles dans lesquelles on trouve des éléments souvent magiques, et également contrairement à ce qu'il y avait dans le petit véhicule, une prise en compte des désirs, c'est-à-dire et des passions. C'est-à-dire que pour ces gens-là, il faut se servir de l'énergie que représentent les passions. Alors pour arriver à quoi, ça c'est encore un autre domaine, mais ils sont en prise sur cette énergie. Alors, l'école la plus importante qu'on retrouve, c'est celle qu'on appelle des paroles véritables, qui est le Shen Yuan Zhong en Chine et le Shingon Shu au Japon. Alors le Shingon, par exemple au Japon, c'est un mouvement qui est important, qui est ancien et qui est important. Alors, en Chine et au Japon. Alors, on l'appelle également Mijong, c'est-à-dire l'école des mystères, ou du mystère. Alors, eux, ce sont des gens qui se sont rendus compte que chez eux, je crois que c'est les premiers chez qui on trouve l'idée, en quelque sorte, que tout n'est pas dans les textes. C'est-à-dire que pour les gens, pour les autres bouddhistes avant eux, la tradition, ce sont les textes, ce sont les sutras, c'est-à-dire la loi. C'est-à-dire que si, même j'ai un mauvais maître, par exemple, ou n'importe quoi, dès lors que j'ai les textes, il reste quelque chose. Même, je ne suis pas très malin, mais à force de lire les textes, je finirai par en tirer quelque chose. Chez eux, ils disent que le bouddhisme et l'éveil. Alors je crois qu'il y a aussi une réflexion chez eux, c'est-à-dire que chez les fondateurs de ce mouvement, c'est-à-dire que ils ont l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui parvient à l'éveil. Alors ils disent c'est bien beau, il y a des monastères partout, il y a des gens qui étudient, mais il ne se passe pas grand-chose. Souvent, les fondateurs de cette école ont été gens qui venaient de milieux très, très populaires, pas tous, hein. mais souvent. Et donc, c'est des gens qui, souvent, sont également marqués, d'une certaine manière, par la magie. Et donc, une partie de leur message, c'est de dire qu'il y a des textes, mais l'illumination du Bouddha s'est transmise autrement. Alors, autrement dans quoi ? Et donc, ils disent... Alors, il y a des formules qu'on appelle les mantras, il y a les gestes qu'on appelle les mudras, et il y a des concentrations sur des objets extérieurs qu'on appelle des mandalas. Donc vous voyez que tout ça est un peu transmis ici. On connaît, même si on ne sait pas toujours le sens de ces mots-là, et donc, mais c'est des choses qui sont transmises au niveau du bouddhisme. Alors, il récite ce qu'on appelle des dharanis, c'est-à-dire des formules incantatoires, et qui sont des formules, en fait, où le but est d'arriver à une prononciation telle qu'on pense qu'à l'époque, ça a été le cas que le Bouddha les a prononcées. Le but, ce n'est pas de comprendre ce que l'on dit. Donc, ce sont souvent des formules, répétitives. Alors, les dharanis, c'est un peu long, les mantras, c'est plutôt court, il y a les deux à la fois. Et donc, on récite ces choses-là. Il y a l'idée que il y a un travail qui peut se faire complètement indépendamment de la conscience. Donc là, finalement, on n'est pas tellement ni dans l'un ni dans l'autre. Hein. Il y a des éléments dans cette doctrine de l'un et de l'autre, mais là, on sort quand même beaucoup du bouddhisme, je dirais, philosophique, entre guillemets. Au Japon, ce courant a été introduit par un moine qui s'appelle Kukai, maire de vacuité. Alors, il y a également, je pense, sans doute dans ce courant, une reprise de choses beaucoup plus anciennes, qui étaient de l'ordre du chamanisme, et qui existaient chez les peuples de la steppe, également au Japon sous d'autres formes, également en Chine. C'est un courant qui s'est développé beaucoup au Tibet, bien que plus tardivement qu'en Chine ou qu'au Japon. Et dans ce pays, il a pris des couleurs, propres à cette ère culturelle. Alors, le bouddhisme est arrivé au Tibet d'une manière qui est tardive, au 8e siècle. Alors, c'est vrai que ça paraît un petit peu paradoxal quand on regarde une carte de l'Inde et du Tibet qui est aussi et de la Chine, parce que finalement vous rappelez que le Bouddha qu'on avait vu est né dans un village qui est dans le contrefort himalayen, et pas très loin de là où passe la frontière népalaise aujourd'hui. Or, si vous regardez une carte, au niveau de l'Himalaya, tout ça c'est quand même beaucoup plus proche, mettons le Népal, le Tibet, etc., de l'endroit où est né le Bouddha, que si vous regardez, je sais pas, la Corée, le Japon ou le nord de la Chine. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le bouddhisme est arrivé en Corée, au Japon, au Vietnam, bien avant d'arriver au Tibet, qui est pourtant beaucoup plus proche. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait sans doute il y a des missionnaires indiens qui sont allés au Tibet, finalement, depuis très longtemps, mais ça n'a pas marché. Parce que il y avait des coutumes et des croyances locales, parce que c'est quand même un pays très, très à part, de par l'altitude à laquelle il est situé, qui faisait que le bouddhisme, du moins, n'a pas pris. Alors c'est un roi tibétain qui a épousé, alors je ne sais pas si c'est ensemble ou successivement, deux princesses, l'une népalaise et l'autre chinoise, et ces princesses, et la népalaise et la chinoise, étaient des adeptes du bouddhisme. Et elles ont amené leur mari royal à changer sa manière de penser. Alors, on voit aussi qu'il y avait une influence à l'époque, mais comme ça se pratiquait ici, c'est-à-dire qu'on essaie de faire pour constituer des alliances, ou au moins pour faire que les pays s'attaquent pas trop, ou de prendre des otages de la famille, ou à l'inverse, de marier, quand on a une fille, de la marier, ce qui avait été par exemple ici l'une des raisons de la guerre de 100 ans. Et donc là, on a une népalaise et une chinoise qui ont été mariées à ce roi, et ce roi s'est converti au bouddhisme. Et donc c'était au 8e siècle, le début du bouddhisme au Tibet. Ensuite de quoi, il y a eu une influence du bouddhisme tantrique, c'est-à-dire donc là très influencé par la magie, par les différentes pratiques, qui est venue du Cachemire. Pour les adeptes de cette forme de bouddhisme, eux ils disent que, mais ça serait pour le bouddhisme tibétain, mais pour le tantrisme chinois et autres aussi, que c'est encore un autre véhicule, c'est pas le petit véhicule, c'est pas le grand véhicule, c'est ce qu'ils appellent le véhicule adamantin, ou véhicule de la foudre, c'est le Vajrayana. Donc Vajra, c'est la foudre, mais c'est également le diamant, donc c'est pour ça qu'on dit un véhicule adamantin. Et donc là, c'est le véhicule de la foudre, probablement en référence à l'effet très fort que doit faire cette forme de bouddhisme. Il y a une influence quand même chez eux au niveau philosophique, c'est-à-dire souvent dans cette forme de bouddhisme, vous avez un peu deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a un niveau, je dirais, qui est un peu pour une élite, hein, de gens qui connaissent bien, qui est philosophique, et vous avez de l'autre côté, il y a deux extrêmes en quelque sorte, vous avez vraiment des pratiques complètement magiques, que nous on jugerait superstitieuses. Et par exemple, je ne sais pas, pour donner un exemple, ils ont vous avez déjà vu ça sur des reportages russes, par exemple des moulins à prière,
ouais,
de petites ou de grandes dimensions.
Ouais.
Vous avez des grands, faut voir comme ça. Et en fait, dedans, si vous voulez, vous avez des sutras. Bon, les petits, c'est juste des phrases de sutras, vous n'avez pas un sutra complet. Dans les grands, vous avez des sutras entiers qui sont dedans, et vous donnez un coup de moulin, et en fait, il y a les sutras sont sur des rouleaux, et donc le rouleau se dévide. Et donc, ben voilà, c'est une bonne action, vous avez fait qu'il y a de la littérature bouddhique qui s'est dévidée. Mais on n'est pas pour rigoler, si vous voulez, pour se moquer, mais c'est sûr que les sutras bouddhiques ont été écrits pour être lus, et puis dans un premier temps, ils n'étaient pas écrits, c'est quelque chose qui était purement oral. Donc, le fait de penser, alors bon, évidemment, si des personnes, ensuite, bon, on dit qu'il y a une force symbolique dans tout ça, etc. Mais les sutras dans le bouddhisme, je dirais philosophique ou intellectuel, mettons, ne peut pas être considéré que physiquement. C'est-à-dire que le sutra, ce n'est pas le papier avec des mots qui sont écrits dessus, c'est le message qui est dedans. Alors, c'est une des caractéristiques de ce bouddhisme, aussi d'avoir développé des clergés parfois extrêmement importants numériquement. C'est-à-dire que vous avez vraiment, par exemple, des lamasseries, et avec un très très grand nombre de gens dedans, et et qui se livrent à différentes sortes de pratiques et qui sont effectivement à différents niveaux. Au niveau le plus haut, il y a une influence forte, et donc ils ont traduit beaucoup de textes dans ce sens, du nagarjunisme, c'est-à-dire de ce côté-là, de la pensée bouddhique. Et alors, le bouddhisme, le lamaïsme, le bouddhisme tibétain, a permis quand même, enfin a permis du moins au Tibet, la pacification des personnes. Parce que c'était un peuple qui était extrêmement guerrier, qui pour les Chinois c'était un petit peu un danger permanent, parce que c'était des hordes, bon ils avaient Tcharanou, ils avaient déjà toutes les hordes turco-mongoles à la frontière sur le nord, ce qui les amenait à construire la Grande Muraille de Chine, mais ils se retrouvaient sur le sud, enfin sud-ouest, avec de temps en temps des tribus qui dévalaient, qui faisaient des razzias. Et c'est vrai que là, on a bien vu que le bouddhisme amène une pacification des mœurs. C'est quelque chose qui semble certain, au moins dans leur cas. Et ils ont été également très bien représentés, et même ça s'est beaucoup développé au XIIIe siècle, à partir du XIIIe siècle, en Mongolie. Alors ça paraît incroyable quand on regarde une carte, parce qu'entre le Tibet et la Mongolie, il y a quand même tout l'Empire chinois qui est un gros morceau. Hein. Alors la raison de cette chose, c'est qu'au XIIIe siècle, il y a l'instauration de la dynastie des Yuan en Chine, qui sont des Mongols, et ce sont les gens d'ailleurs qui, ici on ne le sait pas, mais qui ont bâti quand même le plus grand empire qui a jamais existé sur Terre, même si ça a duré quand même deux siècles, trois siècles à peu près. Hein. Ils sont allés jusqu'à Vienne, ils ont conquis, pour la région qui est proche de nous, tout le haut de la Méditerranée, enfin Égypte, etc., comme ça. Et ils ont conquis la Chine, ils sont allés jusqu'en Birmanie, ils ont essayé d'envahir le Japon, mais ils ont eu un problème maritime, et ils ont conquis toute la Corée. Et donc, la personne qui prend en deux temps la tête de l'Empire chinois, s'appelle le grand Khan Kublai, 1215-1294, et cette personne, pour mettre une administration en place, se rend compte que c'est important de finiser un peu le conquérant mongol de l'UMA. Dans un premier temps, donc, ils engagent un certain nombre d'administrateurs, même parmi eux, il y avait des gens qui venaient très loin, des Arabes, des Turcs, etc., des Chinois beaucoup, et finalement, il se dit qu'il faut développer une religion originale et qui soit propre à l'Empire mongol. Il regarde les religions qui existent en Chine à l'époque, essentiellement c'est le bouddhisme. Le confucianisme, le taoïsme n'est pas tellement sous une forme religieuse comme le bouddhisme, qui était à l'époque en pleine expansion, avec des monastères et tout ça. Et donc, il décide de faire une sorte de, je crois comment dire, de concours, d'inventaire, de différents courants bouddhiques qui existent. Et il est frappé justement par les numéros de magie et autres, etc., que font les moines tibétains. Et donc les Mongols se convertissent, alors c'est incroyable hein, comme affaire, au bouddhisme tibétain. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, en Mongolie encore, donc les gens appartiennent au mouvement tibétain. C'est également, pour différentes raisons, un mouvement qui a une forte représentativité, à l'heure actuelle, hein, je veux dire, en Occident et aux États-Unis. Et qui est sans doute qui a été amené par ce contact avec l'Occident à sans doute changer beaucoup de choses de ce qui était constitutive de l'ère culturelle d'où vient ce bouddhisme. Voilà, nous avons vu déjà l'amidisme, la guirlande de fleurs et le tantrisme. Alors maintenant, une autre école bouddhique, en fait on va en voir encore deux autres grands courants du bouddhisme, qui est l'école du lotus et l'école du dhyana. Alors, le lotus. Alors cette école est connue dans beaucoup de cas comme étant l'école, on dit, du mont Tiantai, donc qui est une montagne relativement élevé, qui est dans le sud de la Chine, dans la région du Zhejiang, donc qui est une région sud-est de la Chine. Alors, le fondateur, enfin l'un des fondateurs, c'est une école bouddhique très ancienne, hein, ça remonte au 6e siècle. L'un des fondateurs est un certain Zhe Yi, qui a été probablement le troisième patriarche de cette école. Oui. Comment ? Oui. Alors donc,
l'école du Mont Tentai. Alors en fait, ils étaient sur cette montagne, parce que là aussi, on est dans une époque extrêmement troublée, et quand on voit la vie de Zhe Yi, finalement, il a beaucoup fui. C'est un homme qui a vu sa famille massacrée quand il était enfant. C'est vraiment des époques très, très lourdes et très dangereuses. Donc Tiantai, ça s'écrit comme ça. Et Zhe Yi, ça s'écrit comme ça.
Alors, c'est une école dont beaucoup d'autres se sont inspirés. Alors, on retrouve dedans beaucoup d'influences diverses, mais surtout des gens qui ont posé le problème sur le plan bouddhique d'une manière un peu différente que les autres. C'est-à-dire que dans le Tiantai, il y a une réflexion sur les écrits du bouddhisme. Parce que eux, au même titre, mais c'est des gens qui sont un petit peu plus tardifs qu'eux, hein, que les gens de la guirlande de fleurs, ils se rendent compte que dans l'ensemble de l'enseignement, à l'époque du Tiantai, ça y est, au 6e siècle, beaucoup de sutras, c'est-à-dire les textes du Bouddha, ont été traduits en chinois, même bien traduits dans beaucoup de cas, des traductions très, très célèbres, et donc ils se retrouvent avec toute une littérature bouddhique très importante. Ils se retrouvent avec beaucoup de traités, et ils se rendent compte ben, que tout ça ne va pas forcément très bien ensemble. Et donc, je crois que c'était les premiers qui ont eu le courage de se poser la question, on va essayer de mettre ça à plat, et on va voir ce qu'on va en tirer. Alors ça, la manière de poser les problèmes comme ça, c'est une caractéristique de cette école qu'on retrouvera, même après, chez leurs descendants. Par exemple, le Tiantai s'appelle le Tendai au Japon. Et par exemple, l'importateur de cette doctrine au Japon, qui est un certain Saicho, lui aussi, c'est quelqu'un qui pose le problème à plat. Parce que quand on pose le problème à plat, c'est qu'on n'a pas peur de ce que le problème va donner. Et en fait, souvent, des gens qui ne... Alors, soit dans le domaine du bouddhisme ou d'autres choses, hein, peu importe, mais qui ne posent pas le problème à plat, c'est parce que tout de suite, dans la manière dont le problème se pose, il y a des choses qu'ils redoutent. Il y a l'idée, non, il ne faut surtout pas qu'on en arrive à ça. Et donc, avant que de poser le problème et de réfléchir, déjà je suis actif pour changer les choses, donc c'est déjà plus politique en quelque sorte comme manière de faire. Dans le Tiantai, ce sont des gens donc qui prônent, des moyens méditatifs, etc. Il y a une démarche très active pour aller vers l'éveil. Quand on voit le texte du Tiantai, c'est des gens qui, les gens qui ont été formés par un maître comme Zhe Yi, il les prenait, mais vraiment pour en faire des éveillés. Hein, donc il y a un enseignement qui est très, très actif, beaucoup de méthodes méditatives, et donc ils sont assez sûrs finalement de leur pratique, et ils sont assez sûrs de leur théorie pour pouvoir poser les textes à plat et essayer de comprendre pourquoi dans les textes on trouve des choses qui sont contradictoires et paradoxales. Donc le Tiantai, les fondateurs du Tiantai ont une très grande capacité de synthèse, et eux, justement, ils combinent, enfin bon, c'était sur le tableau qu'il y avait avant, les éléments qui viennent de la pratique du dhyana, c'est-à-dire du recueillement, et les choses qui viennent de l'observation et de la logique. Donc ils combinent les deux, et alors ils sortent beaucoup de systèmes, parce que c'est une école très, très philosophique et qui développe beaucoup de systèmes. Et notamment, l'un de ces systèmes, c'est de dire, on trouve des choses qui sont paradoxales dans les enseignements bouddhiques parce qu'ils ont été faits à différents moments de l'enseignement du Bouddha et que le Bouddha était un pédagogue, et donc il a fallu qu'il élève le niveau des gens. Et donc, il distingue Alors, je résume tout ça quand même assez vite. Hein. Quelqu'un qui connaîtrait bien Tiantai serait là, il m'écouterait, il serait peut-être un peu surpris. Donc, il résume en quelque sorte l'enseignement du Bouddha en disant, il y a une période où il enseignait les gens, et il y a une autre période, 8 ans avant sa mort, donc dans leur texte, où là, il parle pour la postérité. Et quand il parle pour la postérité, enfin, c'est pas qu'il parle pour la postérité, c'est-à-dire qu'il dit son éveil vu de l'intérieur. Le but, c'est plus de faire progresser un tel, de faire progresser tel disciple qui a telle capacité, etc. Ça y est, maintenant, il sait qu'il va mourir. Et donc, il faut laisser là, vraiment, ce qui est le reflet de l'éveil du Bouddha. Et donc, ce qui est le reflet de l'éveil du Bouddha, pour eux, c'est un livre du bouddhisme qui s'appelle le Sutra du Lotus, qui est l'un des livres les plus répandus en Asie, d'ailleurs qui est traduit en français, à 2 traductions qui sont toutes les deux bonnes, une qui est traduite du sanskrit qui est difficile à trouver maintenant, et une autre qui est traduite du chinois par un spécialiste du bouddhisme qui s'appelle Jean-Noël Robert, et donc ça s'appelle Le Sutra du Lotus, c'est publié chez Fayard. Et donc, pour les gens du Tiantai, l'enseignement du Bouddha est contenu, car l'enseignement du Bouddha, en fait, pour lui-même, est contenu, le plus profond, est contenu dans ce livre qui s'appelle le Sutra du Lotus. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est l'école du Lotus. Voilà. En référence, comme on disait tout à l'heure, l'école de la guirlande de fleurs pour les gens qui avaient le Sutra de la guirlande de fleurs. Là, c'est pour les gens du Tiantai. Alors, ils ont développé énormément de systèmes philosophiques, vraiment, je dirais, je vais toujours parler de l'aspect un peu comptable. Quand vous dites qu'on dit les 4 vérités, les 12 machins, les 3 trucs, etc. Et tout. Alors dans le Tiantai, là, je veux dire, il y a une magie des chiffres. Hein. Là, là, c'est quelque chose d'énorme. Ils ont développé à la fois ça et également des modes de méditation et de pratique, de recueillement. C'est eux, par exemple, qui sont à la base de la pratique de l'arrêt. De l'arrêt et examen. C'est ce qu'on appelle le Jekuan en chinois. C'est-à-dire que il faut arriver à casser les enchaînements mentaux, mécaniques et automatiques qui nous constituent. Et donc, dans le Tiantai, il y a quand même toujours quelque chose de très volontaire. Il y a l'idée que si je veux, je peux. C'est-à-dire que le résultat n'est pas garanti à chaque fois, mais au moins si je ne veux pas, je n'y arriverai pas. Donc, on voit le Tiantai, par exemple, il dit, tu es en train de marcher, ils sont dans la rue, enfin, tu arrêtes. Qu'est-ce qui marche? Donc tu t'arrêtes et physiquement et mentalement, qu'est-ce qui marche? Quelle est la personne qui est en train de marcher? Tu es en train de manger, tu arrêtes. Qu'est-ce que tu es en train de manger? Qui est en train de manger? Etc. Donc c'est cette manière d'un coup de casser l'instant, de casser les enchaînements. Et donc, beaucoup de mouvements du bouddhisme ont pris beaucoup dans le Tiantai. Hein, parce que, en fait, si vous voulez, vous avez en Chine, il y a eu, on pourrait dire, une sorte de bouddhisme du Sud, qui était une région où on exilait volontiers les gens, et où on voit bien cette espèce de... Par exemple, quand vous voyez les peintures chinoises, ces montagnes arrondies un peu... il y a vraiment toute une manière de... C'est un art de la Chine qui s'est développé dans le Sud, et il y avait le Nord, qui était là où il y avait vraiment l'administration, et des mœurs plus dures. Et donc, dans le Nord, on a eu en général souvent un bouddhisme assez dévotionnel. Par exemple, l'amidisme, on prenait, c'est répandu dans le Nord. C'est vraiment avec des pratiques, il faut faire des pratiques, même on ne comprend pas très bien, etc. Mais dans le Sud, vous avez souvent un bouddhisme beaucoup plus... Oui, et beaucoup plus méditatif. Ouais. Alors donc, le Tiantai a eu une grande influence sur beaucoup de penseurs du bouddhisme, et notamment sur une école, alors là, qui est propre au Japon, qui était une école importante, qui s'est développée pendant la période qu'on appelle de Kamakura, qui est le 13e, début 14e, qui était une époque assez spécifique du Japon. Et donc, ce penseur s'appelle Nichiren, et c'est quelqu'un qui avait été ordonné dans la tradition du Tendai, donc c'est la prononciation Tendai, c'est la prononciation japonaise de Tiantai. Et c'est quelqu'un qui déplore donc les conditions de son temps, qui estime que le bouddhisme est devenu corrompu, et qui, après une étude assez longue des textes, et notamment à l'intérieur des grandes bibliothèques du Zendai qui étaient répandues à différents endroits du Japon, donc qu'il a visité, se rend compte que à l'origine du Tendai, il y a le fait de la prééminence qui est donnée au stress de Tuc sur toutes les autres écritures. Et il dit, même à son époque, même dans le Tendai, c'est plus le cas. C'est-à-dire qu'il y avait toujours une tendance syncrétique dans le Tendai qui existait, parce que, pour poser le problème à plat, ils avaient ramené toutes les écritures du bouddhisme. Donc il y avait quand même une idée assez syncrétique à la base. Et dit, mais maintenant le syncrétisme est allé beaucoup trop loin, même dans cette école, et il faut revenir au Sri-Lotus purement, et le séparer vraiment de l'ensemble des autres écritures. Il veut également donner une pratique qui soit accessible à tous, parce qu'il y a chez Nichiren, d'une certaine manière, même des influences confucéennes, qui font que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur les malheurs de son temps. Alors, il a l'impression, c'est sans doute vrai, hein, parce que c'est quand même une époque un peu troublée, c'est moins qu'on puisse dire, mais de vivre dans une époque particulièrement troublée. Alors, c'est vrai, c'est pas entièrement vrai, parce que finalement, ce qui va venir après au Japon, ça sera encore pire. Mais enfin, bon, ça, c'est encore un autre débat. Est-ce qu'il y avait avant, il y a des périodes où c'était un peu dur aussi. Mais enfin, c'est vrai que lui, à l'époque où il est, il y a un ordre politique qui s'est mis en place, qui est un petit peu bizarroïde, hein. En ce sens où il y a une structure qu'on appelle le shogun, donc le shogunat, qui était le premier qui s'est établi, qui a été un homme, Minamoto, donc ça c'est fin du 12e siècle, hein, qui, au fur et à mesure, a pris l'ensemble du pouvoir, surtout le pouvoir de pouvoir nommer les guerriers, les dignitaires, etc. Et qui a défait ses principaux rivaux, et donc a pris, on pourrait dire, d'une certaine manière, même si c'est pas la manière dont on voyait les choses à l'époque, la tête du pays. L'empereur était relégué dans sa capitale de Kyoto, et cet homme-là s'est établi à Kamakura. D'où le nom de l'époque de Kamakura ou Vinichiren. Mais, cette personne meurt et finalement c'est un clan de guerriers assez obscur, pas très aristocratique, qui est le clan de sa femme, et qui vont prendre le pouvoir d'une manière assez subreptice, d'une certaine manière, et qui vont quand même à l'intérieur de ce clan conserver le pouvoir pendant plus d'un siècle, presque deux siècles, ce qui pour le Japon est relativement long parce que c'est quand même un pays qui a une histoire très instable. Et donc, ces gens-là disent qu'ils sont les régents du shogunat. Et du coup, c'est vrai que pour les personnes de cette époque-là, c'est quelque chose qui était assez difficile à intégrer, parce qu'en sorte, il n'y a pas de constitution, c'est même pas dans quel régime politique qu'on était. Il y avait un empereur, il n'y avait plus aucun pouvoir, il y avait un shogun, il n'existait plus, puis il y avait des gars qui disaient qu'ils étaient les régents du shogun. Et donc, ça semble une époque un peu bizarre pour les gens qui réfléchissent dessus et qui la vivent. Mais par contre, cette famille qui a pris le pouvoir, vu qu'ils ne peuvent pas tenir ni par la naissance, ni entièrement par la force, ils vont être obligés de faire, je caricature un peu, mais ce qu'on appelle aujourd'hui une sociale, d'une certaine manière, c'est de faire des choses qui marchent avec les gens, afin de ne pas avoir tout le monde contre eux, et finalement, c'est un gouvernement qui aurait été pas plus mauvais que d'autres. Mais en fait, dans le cas de Nichiren, donc lui, il est extrêmement concerné par les malheurs de son temps. Et puis, il y a également de l'autre côté, on l'a vu tout à l'heure avec le Kublai Khan, mais il y a l'Empire mongol qui commence à peser et qui a déjà envahi la Corée et qui se prépare à envahir le Japon, qui va être finalement défait, ils vont être dans deux tempêtes successives, dans deux... le Japon, pour la première fois de son histoire, risque d'être confronté à une invasion. D'ailleurs, les îles du sud du Japon, certaines ont été envahies par les Mongols qui ont ensuite été repoussées. Mais déjà, c'est la première fois que le Japon, l'autre fois, ça va être avec les Américains pour la Deuxième Guerre mondiale. Comment ? Attention, ils partent de Corée. Hein. La flotte mongole part de Corée. Ils ont conquis toute la Chine, ils ont conquis toute la Corée. En Corée, c'est terrible ce qui se passe. Parce que pour arriver à construire cette armada, mais immense, et en plus, la mer entre la Corée et le Japon est une mer qui est agitée pour les moyens de transport de l'époque. Hein. Et donc, le pauvre pays coréen va être mis vraiment sous un joug terrible avec les Mongols, parce que, en fait, les gens qui vont construire les bateaux, donc les forêts coréennes vont être rasées hein, pour construire les bateaux. Et les gens qu'on va mettre dessus, les marins, les soldats et tout, c'est en premier les Coréens, en fait les Chinois, et en dernier, pour les officiers, les Mongols. Hein. Donc, pour la flotte part de Corée. Et donc, Nichiren, donc lui, vis-à-vis des malheurs de son temps, veut être une sorte de réformateur du bouddhisme, de reprendre la tradition du Tiantai, mais en même temps avec des pratiques qui soient accessibles aux personnes. Et donc, il développe une pratique qui lui est propre, qui est la récitation du titre du trait du lotus, précédé de la forme Namu, qui signifie donner sa vie, se consacrer. Alors, en japonais, donc, le traducteur, c'est Myoho Rengekyo, c'est le Myapa Lienroi Jin chinois prononcé à la japonaise, c'est Myoho Rengekyo, et donc, il donne la formule Namu Myoho Rengekyo, ou Nam Myoho Rengekyo, à réciter pour ses fidèles, avec l'étude assez précise du texte du lotus. Et je dirais que c'est un des mouvements du bouddhisme les plus récents, parce que c'est un mouvement qui est donc 13e siècle. Et par exemple, un historien anglais avait défini Nichiren comme étant l'un des derniers grands prophètes, en quelque sorte, de l'humanité. Et alors, le mouvement du Nichirenisme a été important au Japon. Et il est également relativement important maintenant en Occident et aux États-Unis. Parce que depuis l'après-guerre, il a été beaucoup, peut-être que vous avez entendu parler, d'un groupe qui s'appelle Soka Gakkai, et donc qui est un mouvement qui a propagé une forme de nichirenisme, il y en a d'autres. Donc voilà pour les courants dits du lotus. Donc dans lesquels on trouve essentiellement le Tiantai et une sorte de revisitation du Tiantai qui est faite par le japonais Nichiren. Alors il nous reste à voir une dernière école qui a été importante. Alors, attention, c'est pas exhaustif hein, ce que je dis, mais on aura vu au moins les principaux mouvements. C'est-à-dire que maintenant, si vous... Comment ?
On va choisir
même. Oui, non, mais je veux dire, si vous allez dans une librairie et que vous voyez le rayon bouddhisme, vous comprendrez ce qu'il y a. Alors, la dernière école donc du grand véhicule, c'est l'école du Dhyana. C'est-à-dire, là on est, bon, je sais plus mon tableau, mais enfin on est vraiment dans la colonne qui est à droite, c'est à l'école du recueillement, de la méditation, et qui est plus connue sous son appellation japonaise, qui est Zen. Donc c'est l'école du bouddhisme zen, donc qui est ici et connue depuis un certain nombre de temps. Alors que pourquoi toutes ces écoles sont connues davantage pour leur appellation japonaise que chinoise, parce que c'est une vieille école chinoise, hein, le zen qui s'appelle le chan en Chine, parce que quand même, après-guerre, Deuxième Guerre mondiale, la Chine ayant basculé dans le régime maoïsme, étant un pays qui était extrêmement fermé sur l'extérieur, et bon, et puis avec vraiment une problématique marxiste extrêmement forte, hein, la révolution culturelle, c'était pas rien. Nous, souvent, ces mouvements sont arrivés en Occident plutôt en partant du Japon que de Chine. Même si, par exemple, dans le cas du Zen, c'est des vieilles sectes chinoises, en fait. Alors, d'où vient ce mot Zen ou Chan en chinois? En fait, c'est très simple. C'est une abréviation de Chan-na, qui était la manière dont les Chinois avaient translittéré le sanskrit dhyana. Donc le zen, c'est vraiment la pratique du dhyana, c'est-à-dire la pratique du recueillement. Alors, le zen, donc, est le descendant de cette école chinoise Chan, mais sachant que les liens entre la Chine et le Japon, pendant tout le temps où les différentes écoles du zen se sont implantées au Japon, ont été très étroits. Alors, à la base, c'est un bouddhisme du nord de la Chine, c'est-à-dire un bouddhisme dévotionnel, mais qui s'est beaucoup teinté d'influence du sud, notamment d'influence du Tiantai. Il aurait été créé par un personnage qui s'appelle Bodhidharma. Alors je pense que lui, vous l'avez peut-être déjà vu, il y a toutes sortes de poupées qui existent, hein. C'est un personnage avec une barbe et des yeux assez grands, non ? Pas bon ? On trouve, il y a toutes sortes de poupées de représentation de Bodhidharma, qui s'appelle en japonais, parce qu'on connaît souvent son nom japonais, Bodhidharma, et qui est abrégé en Daruma. Alors ce personnage, finalement, on a très très peu de données historiques sur lui, et donc, on peut dire, il aurait vécu au 6e siècle. C'est un Indien, il arrive en Chine, enfin en Chine du Nord, et il amène un courant, c'est un personnage intransigeant, enfin, mais beaucoup de choses qu'on a lues, en fait, c'est de la légende, donc là, on est quand même dans un domaine, comment dirais-je, assez hypothétique, mais il amène un courant méditatif qui, un peu comme on l'a vu vis-à-vis du tantrisme, d'une certaine manière, se méfie des écritures et du savoir. Par exemple, il y a un proverbe zen qui dit le sage montre la lune et l'idiot regarde le doigt du sage. Et eux, ils disent, par exemple, que le doigt du sage, ça représente les écrits bouddhiques. C'est-à-dire qu'à la place de voir que des signes sont écrits, les gens regardent le doigt lui-même. Donc vous voyez, le zen, enfin le chan chinois, c'est également beaucoup teinté d'influences qui viennent du taoïsme. Alors au début, c'était un mouvement essentiellement monacal, et d'ailleurs ça allait beaucoup rester. Contrairement à ce qu'on dit ici, parce qu'ici souvent on dit que quelque chose est zen dans le sens où c'est convivial et serein. Ben le zen n'est pas fait pour être extrêmement serein peut-être, mais convivial pas forcément. Ce sont des pratiques extrêmement dures. Je vous recommande, il y a un livre qui a été écrit par un auteur surtout de romans policiers, qui s'appelle Wetwin. Je ne sais pas si vous connaissez.
Par contre, je ne vais pas me rappeler du nom du livre dernièrement. Et ce gars-là, qui est un Hollandais, a été un moine zen. Il a été dans un monastère au Japon, M. Wetwin. Et je crois que son livre s'appelle Le Miroir Vide ou quelque chose comme ça. Et donc, lui, il décrit vraiment ce qu'est la journée de quelqu'un qui pratique le zen. Et je peux vous dire que c'est vraiment c'est extrêmement dur. C'est vraiment un entraînement, même qui lui l'entraîne pratiquement presque au bord de la folie, en fait. Hein. Mais, enfin bon. C'est le cas de son expérience à lui, c'est pas le cas du zen en général, tout ça. Mais ici, on a l'impression que c'est quelque chose de...
relaxant.
Oui, oui.
Oui.
Alors, c'est apaisant. Hein. Enfin, je crois que c'est à peine, mais quand même, on oublie quand même la dureté que ça représente. Parce qu'en fait, bon, dans le zen, les personnes, donc là, on est vraiment du côté du dhyana, c'est-à-dire du recueillement. Les personnes se livrent à des séances de recueillement, souvent très longues. Et donc, en fait, dans le recueillement, donc, les gens sont face à un mur, et on est face à, enfin, et le but, c'est d'arrêter la pensée un peu. Hein. Et donc, on est face avec le travail de son propre esprit. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours... Alors, il faut être suivi par un maître qui a le... comment dirais-je, enfin qui a un certain savoir-faire. Le zen a beaucoup influencé la culture chinoise, mais surtout la culture japonaise, parce que c'est à la base quand même d'une esthétique particulière, qui est l'esthétique des jardins de pierre, qui est l'esthétique du vide. Et surtout, ça a beaucoup marqué au Japon. Je ne sais pas exactement à partir de quelle époque, mais je pense après le 15e siècle, 16e siècle, la classe sociale qui est celle des guerriers. Alors, pour nous, ça peut nous paraître très paradoxal, parce que, par exemple, le bouddhisme déconseille formellement le meurtre. Hein. Enfin, il déconseille de faire le mal en général, non seulement de tuer les gens, mais de faire le mal. Or, ces guerriers étaient des gens qui étaient là pour se battre, hein, et c'est des gens qui, certains, étaient des véritables machines à tuer. Hein. Et donc, on se dit, qu'est-ce qui fait que des gars comme ça peuvent être bouddhistes? Et sachant que le bouddhisme a toujours eu des vertus pacificatrices.
Et en fait, ce que ces guerriers ont apprécié dans le zen, c'est justement le côté immédiat et abrupt. C'est vrai que dans la réflexion zen, il y a quelque chose qui est extrêmement abrupt. Pour eux, souvent ils comparent l'éveil à comme un seau d'eau, par exemple, dont le fond se détache d'un coup, ou comme un gant que l'on retourne. Il y a toujours quelque chose comme ça qu'on voit la vie des maîtres du zen, ces gens qui ont des réflexions parfois très inattendues, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, ces guerriers, eux, vivaient dans une forme d'idéologie qui leur était transmise dès l'enfance, qui consiste à ne pas avoir peur de la mort. C'est-à-dire ces gens qui avaient inventé un mode de suicide spécialement étrange et qui n'a pas été fait ailleurs. Ne pas avoir peur de la mort, ne pas avoir peur de la douleur, redouter le déshonneur par contre.
Non,
il s'ouvre le ventre, harakiri. Oui. Et donc c'est une manière de suicide qui est... C'est autre chose, c'est peut-être autre chose. Et donc, pour ces guerriers, le but n'est pas du tout de vivre une longue vie, d'ailleurs, si on veut vivre une longue vie, il vaut mieux pas toucher tout le temps aux armes. Et le but est de mourir d'une manière rapide et glorieuse un peu. Ils comparent souvent leur vie aux fleurs de cerisier. Le cerisier, c'est très beau quand c'est en fleurs, mais c'est pas longtemps, puis d'un coup, il y a tout qui tombe, il n'y a plus rien. Et bien, il dit, c'est pareil, il faut que la vie, il y ait une sorte d'éclosion, et puis ensuite, il n'y a plus rien. Et donc, ces personnes, ces guerriers, en même temps, ils veulent pas passer tout leur temps dans les bouquins, c'est pas un guerrier, c'est pas fait pour ça. Et donc, certains ont un grand savoir, hein. Mais souvent, ils sont justement tentés à interdire par cette démarche extrêmement abrupte, par ces raisonnements très paradoxaux, par des choses comme ça, et par la pratique du recueillement. Et même l'un des derniers, au XIXe siècle, l'un des dernières personnes qui était vraiment à la tête de mouvements guerriers importants, était un adepte du zen très quotidien. Donc, on a fait, si vous voulez, un tour qui a été, je pense, sans doute un petit peu rapide, hein, parce que je vois le nombre d'époques, de continents qu'on a survolés, mais enfin qui vous donne quand même un peu une idée de la manière dont les choses, au moins des grands mouvements. Alors, je pense qu'il y en a que j'ai pas dit, qui n'existent plus certains, ou qui sont plutôt minoritaires, mais je voulais garder l'idée que d'un côté, il y a eu une première séparation entre le bouddhisme du petit véhicule ou de l'école des anciens que l'on trouve à Sri Lanka, qu'on trouve en Birmanie, qu'on trouve en Thaïlande, et de l'autre côté, ce qui était davantage l'école du grand véhicule que vous trouvez Chine, Corée, Japon, Vietnam. Et ensuite de quoi, à l'intérieur du grand véhicule, des écoles qui sont encore très, souvent très vivantes, et parmi lesquels l'amidisme en premier, l'école de la guirlande de fleurs, tout ce qui est lié au tantrisme, l'école du lotus et l'école du dhyana. Je crois que ça permet un petit peu de poser les choses. Oui. Donc il y a des choses, des mouvements beaucoup plus petits dont je n'ai pas parlé, donc ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressants, hein, parce qu'il y aura des mouvements parfois petits et très passionnants, mais au moins ça donne une idée un peu, si vous voulez, globalement, du bouddhisme à l'heure actuelle.
Les moines de Shaolin,
oui.
Shaolin,
oui.
Sont de quelle tendance?
Oui, alors théoriquement, le Shaolin Su, donc le temple Shaolin, aurait été fondé par Bodhidharma. Donc, normalement, à l'origine, hein, ils étaient liés au Chan. Mais en fait, les gens qui ont étudié ça sont extrêmement controversent beaucoup ce principe, parce qu'ils disent que le temple Shaolin qui aurait fondé Bodhidharma n'est pas situé au même endroit que le temple Shaolin actuel. Donc alors là, donc là ça devient plus complexe.
Donc Chan, Zen,
oui,
enfin, c'est ce qu'on a étudié.
Oui.
Mais il y a un travail physique fantastique.
Oui.
Ils ont une...
Oui.
Une souplesse, enfin, une capacité physique.
Oui, tout à fait.
Très surprenant. Oui.
Alors, il faut savoir que c'est un temple qui, à différentes époques de la Chine, a été complètement rasé. Hein. Parce qu'ils ont souvent abrité beaucoup de, comment dirais-je, de contestataires. Ils les ont formés militairement, et souvent c'est un temple qui a subi les rigueurs de l'histoire.
Il se situe où d'ailleurs?
Alors je ne sais pas exactement, j'y suis jamais allé, je ne sais pas, moi je reste à, je sais pas. Donc il faudrait aller sur une... je ne pourrais pas vous répondre exactement. Du point de vue du bouddhisme, si vous voulez, c'est pas un grand temple connu. Il ne fait pas partie, par exemple, des 5 grands temples qui sont des endroits de pèlerinage en Chine. Hein, c'est pas un temple, mais effectivement, c'est des gens qui avaient développé des techniques de combat.
Vous connaissez le temple qui est près d'Ota?
Qui est près de?
D'Ota.
En France.
En Bourgogne.
Non.
Ota.
Non, j'avoue que non. Oui. Et il est comment? Non.
Je n'ai pas visité, ah, oui. Donc je pourrais pas vous en parler, mais...
Non, moi je suis allé en France dans peu de temples. Je suis allé dans celui qui est à Joinville, hein, près de la station de RER, qui est assez joli, hein, l'intérieur, une petite cour intérieure et tout ça. Et c'est juste en sortant du RER, c'est vraiment une forme de pagode, en fait, assez joli et tout. Et dedans, vous trouvez le... comment dirais-je? Alors, je ne sais pas exactement de quel courant il relève, mais c'est vraiment le bouddhisme traditionnel chinois dedans. Et je connais pas beaucoup d'autres qui soient... Alors je suis allé près du lac de Ménil, là-bas. Oui. Donc là, vous avez, je crois, des activités tibétaines plus ou moins permanentes, et également des sessions qui sont faites pour différentes fêtes et par différentes communautés asiatiques. Et moi, j'étais invité une fois par des Cambodgiens, et j'étais là-bas. Mais je dirais que si vous voulez, je pense que dans la manière dont le bouddhisme arrive en Occident, on pourrait dire par deux, enfin maintenant, même depuis un certain temps, j'ai presque depuis la fin du 19e siècle, par deux canaux à la fois, c'est-à-dire que vous avez d'un côté, ça arrive par la traduction de livres et par des Européens qui ont essayé de comprendre ce qui se passe en bouddhisme, qui ont appris le bouddhisme en Asie et qui essaient de voir ce que ça peut donner en France. Et de l'autre côté, ça arrive par, je dirais, les différents ordres religieux constitués d'Asie qui essayent d'avoir une forme d'expansion. Et donc, c'est assez différent d'une certaine manière. Et vous avez à la fois, je crois, ces deux canaux par lesquels ça arrive. Et souvent, si vous voulez, c'est aussi le fait que, à un moment donné, vous avez un maître bouddhiste qui appartient à un mouvement ou à un autre et qui vient vivre en France ou dans un pays européen. Le Zen, par exemple, a été bien connu en France, oui, parce qu'il y a eu un moine Zen japonais qui avait des ennuis un peu avec sa propre hiérarchie au Japon et qui arrivait ici. Et donc là, les gens, quand même, bon, ont vu un bouddhiste en chair et en os, d'une certaine manière. Mais
on connaît son nom.
Comment?
On connaît son nom, il est connu.
Oui, oui, il est connu, il a écrit plein de bouquins, il s'appelle Deshimaru. Et je crois qu'il est mort, d'ailleurs, maintenant.
Oui.
Et donc, c'est lui qui a été un peu à l'origine d'une certaine communauté zen qui est en France. Il représente une des branches du zen japonais. Mais... je pense qu'il y a une... si on regarde un peu, si on compare avec la manière dont le bouddhisme, par exemple, a été importé en Chine, vu qu'il est venu d'Inde, alors je ne sais pas si ça se passera pareil en Occident ou pas, peut-être que la chose aura du succès, ou peut-être qu'on n'aura aucun, j'en sais rien, mais en fait, en Chine, on a vu qu'il y a eu les différentes écoles indiennes ont envoyé des missionnaires. Et ça a créé une sorte de terreau sur lequel il y a des concepts bouddhiques qui sont apparus, mais tout ça, ça serait développé parce que ils étaient en Chine et qu'il y a vraiment une manière de penser. Mais comme en France, il y a une manière de penser qui n'est pas la même manière qu'en Inde, qui n'est pas la même manière que, etc. Et par contre, quand c'est des Chinois qui se sont penchés sur la chose, qui ont fait qui l'ont digéré en quelque sorte. Là, vous avez vu un développement du bouddhisme en Chine. Enfin bon, j'en parle rapidement, hein, ça fait quand même quelques siècles. Mais, à un moment donné, il y a eu dans l'esprit de certains Chinois, il y a eu une sorte de fenêtre de tir qui a été ouverte. Ils ont vu, ils ont compris, ils ont pu expliquer à leurs compatriotes de quoi il s'agissait. Et en fait, quand on voit ces différentes écoles dont je vous parle, la bouddhisme, la guirlande de fleurs, le lotus, le chan, tout ça, eh ben, la plupart, ben, c'est des écoles qui n'existaient pas en Inde. Et finalement, c'est celles qui restent aujourd'hui. Mais il y a des éléments dans toutes ces écoles, de choses qui viennent du bouddhisme. Je vous ai parlé au début de, d'un côté l'école de la, du dharma et de l'autre côté du dhyana. Ben, tous ces gens-là ont repris ça de l'Inde. Mais ils l'ont pensé à la chinoise. Et c'est ça qui a donné ensuite le bouddhisme qu'on connaît. Donc c'est dans un premier temps, je pense que c'est normal en quelque sorte qu'il y ait une sorte de, comment dirais-je, d'exportation faite par les mouvements religieux locaux, mais ça ne marche pas toujours en quelque sorte. Et pour que ça marche, il faut qu'il y ait une forme de digestion interne. Parce que là, on arrive quand même avec des choses qui sont très très différentes. Et le bouddhisme est une expérience vivante. Ça fait des questions, des commentaires, des... Bon là, on a vu beaucoup de choses hein, aujourd'hui, hein, c'était un peu... Mais ce que j'ai voulu souligner, c'est qu'on ne termine pas sans que vous ayez, quand vous allez dans le rayon librairie de la FNAC ou de je ne sais pas où, et que vous voyez le rayon bouddhiste, que vous compreniez de quoi il s'agit un peu. Comment ?
Non.
Vous parlez de quel livre ?
Les fleurs du Bouddha.
Ah oui, c'est quoi ?
Je ne sais pas, non.
Ah bon ? Ah d'accord.
Je l'ai lu, mais je dois bien le relire, parce que maintenant je peux prendre un livre, ça tombe bien, peut-être.
Des questions, des réflexions ? Alors... Ça, c'est le diagramme que j'ai fait la fois dernière et qui avait été mal, qui était mal passé dans le texte. Hein. Donc, si vous voulez le faire passer. Ça, c'est bien tout ça, c'est aujourd'hui. Là, ça passe dans l'autre sens. Hein.
Actuellement, quand les gens de ce pays se mettent à s'intéresser au bouddhisme, c'est un peu une question de coïncidence,
oui.
De rencontre, oui. Qui fait qu'ils vont dans une direction ou dans une autre.
Oui.
Donc, c'est peut-être au fil de quelques décennies qu'une décantation, une digestion se fera pour voir quel est le courant qui est le plus adapté à notre culture et notre mentalité.
Oui. Tout à fait.
Je ne savais pas que c'était une suite de cancer. Mais non, ils n'ont jamais dit ça, j'ai fait toutes ces personnes. Il y a eu la même chose, 9 fois, vous revenez 9 fois. C'était pas une suite. Je ne savais pas.
Non, c'est le cas. Oui, mais bon, théoriquement, il y en a d'autres. Alors, tout le script de ces conférences est disponible sur Internet. J'ai mis le site et on peut même certaines les écouter. Parce que j'enregistre avec un appareil que m'a prêté mon fils. Quand je comprends comment ça marche. Ben écoutez, normalement, il y en aura d'autres. Et puis, ben, vu que j'ai les différents téléphones des personnes, je vous tiendrai informé.
Ah
oui. Sans aucune forme d'obligation si je fais des choses diverses. Hein, parce que le... Écoutez, voilà, en tout cas, il me reste à vous à remercier chacune des personnes, parce que je crois que, bon, ben, certains ont été assidus, même très assidus à beaucoup de ces réunions. Je pense qu'on a quand même pu échanger et vivre ensemble et apprendre ensemble certaines choses. C'est un peu rare dans notre société d'une certaine manière. Et puis, bon, bah, c'est un sujet qui, enfin, moi, qui me passionne vraiment de longue date.
Hein.
Oui, et je...
Oui.
Merci aussi beaucoup.
Merci à vous.
D'avoir pris la peine et le courage d'entreprendre cette expérience.
C'est la première fois
que vous faites
un cycle conférence.
Oui. Sur ce sujet, oui. Oui. Comment ? Oui, tout à fait. Tout à fait.
Et moi, je voulais savoir si l'accueil ici était sympathique pour les personnes qui ne connaissent pas. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas inscrits à la maison de la réunion en fait ?
Oui.